avec Jeff Fortin et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
On en jase certains à Boulevard 102.1. Il est midi, une minute. C'est votre émission du midi, votre émission d'actualité, d'analyse de ce qui se passe autour de vous. En politique municipale, provinciale, fédérale, c'est l'émission On en jase, c'est notre mandat. On tente de le faire du mieux qu'on peut. Et quand on dit On en jase, on passe proche d'arriver en retard. Parce que pendant que Pascal CV courait sur les dernières nouvelles pour vous informer adéquatement, moi et Antonine Niaccarini, on avait un bon débat hors d'onde.
On s'ostinait.
On s'ostinait sur les mesures de Christine Fréchette concernant sa salle d'attente virtuelle. Moi, j'ai des bonnes sources qui m'ont dit qu'il y aurait de la télémédecine qui arriverait avec ça. Débat samedi. Avant de nous arriver avec des nouveautés, et là, moi et Antonine, on s'assinait là-dessus, c'est pas possible. On est à l'ère des fax encore. Puis là, faudrait inventer une patente. Puis les patentes qu'on invente, ça coûte des milliards de dollars. Ah, j'ai hâte qu'on en parle tout à l'heure en nombre. J'espère vous avoir mis l'eau à la bouche, chers auditeurs et auditrices. Carl qui nous écrit « Bon midi avec un cœur, oh, on t'aime, Carl. » On aime ça faire de la radio pour vous. 418-971-1021. Vous avez le goût de nous envoyer de l'amour? Vous avez le goût d'interagir avec nous? Vous avez le goût de chialer? Hey, parlant de chialer, là, ça, c'est le fun. Ça se passe par médias. Karine Gagnon écrit une chronique. Une chronique où elle dit Bruno Marchand communique mal. Ce qu'on dit, on en jase depuis au moins 2 semaines. Et là, dans la même chronique, elle dit Stéphane Lafrance, il nous invente des histoires de rencontres annulées parce qu'il veut parler à du monde du tramway puis Bruno Marchand veut pas. Et là, Stéphane Lachance réplique à Karine Gagnon. Il a sûrement pas lu la première partie de la chronique de Karine Gagnon où il dit « Karine Gagnon est toujours sur mon dos ». Et là, Karine Gagnon répond « Stéphane Lachance a l'épiderme sensible ». Ben, on va avoir Karine Gagnon, non, d'amis de 50. J'aime ça parler de petites chicanes de même. Je sais qu'Anthony n'aime pas ça.
La chicane?
Ouais. Des débats d'idées.
Les débats d'idées, j'aime ça. Les chicanes stériles, un peu moins.
Ah! Mais tu piquant dans notre vie. Je suis excité. Bon show! Que William nous écrit. Ben bon show à toi aussi, mon William. Toi, Pascal, c'est vrai. Aimes-tu ça quand les politiciens et les chroniqueurs s'astinent de même?
Ben, ça démontre la différence entre être dans une boîte médiatique et être en politique. Je pense qu'il y a toujours un juste milieu là-dedans. Mais c'est sûr que, on est biaisé. Je suis biaisé dans mes analyses parce que moi, je commente l'actualité. J'ai pas les deux pieds dans une Assemblée nationale, par exemple. Faut tout le temps que je l'ai en tête. J'aime le débat d'idées. Mais je suis pas la personne qui s'insurge pour s'insurger, ça c'est sûr.
Ouais.
Mais je vais me questionner beaucoup sur la façon de faire les choses.
J'aime ça.
Tu sais, moi, je suis née dans une famille où tout se dit, ça dépend de la manière dont on le dit. Ça a
en
été
effet.
Le mantra. Et patience et douceur valent mieux que force et rage. Et là, je sais, j'ai des amis de famille qui écoutent en ce moment et qui disent hop là, ouais, ça, on l'entend.
Pas tout vrai.
Non, non, mais au contraire, on l'a entendu.
Ah,
là.
OK, OK.
Ouais, ouais.
OK. Parfait.
Mais c'est pas facile toujours.
Ben
ça,
non,
c'est sûr.
On en pète toutes des coches. On est tous comme ça. Que celui qui ne s'est jamais fâché tire la première pierre.
Il y a le dicton anglo aussi qui dit « Kill them with kindness » que j'adore.
Ouais, en effet.
Tu sais, la gentillesse, là, ça gagne toujours, peu importe.
Ouais.
Sais-tu déjà obstiné avec un patron puis s'est mis à crier puis tu l'as juste regardé puis tu as juste fait « Hey, sais-tu quoi? On reprend la conversation demain. »
Ou « Sais-tu quoi? » Bye.
Ouais, mais il y en a beaucoup qui disent que ce serait la chose à faire. Ouais, pour le respect. Tu mérites le respect que tu aussi décides d'instaurer face à toi là.
Ouais.
Ça va toi. Mais là, si tu me parles aux affaires sociologiques, des réflexions psychologiques, on a pour 3 heures, c'est pas ça le show là.
Non, pas ça du tout. Hein,
on
en
a un gros show aujourd'hui.
Yes, très gros show. Pascal CV qui s'est entretenu avec Daniel Fortin. Ça, c'est un père qui a perdu son enfant ou ses enfants dans l'accident qui impliquait Éric Légaré, le chauffeur.
Ben, vous le connaissez sans le connaître peut-être. Daniel Fortin, effectivement, père de Jackson Fortin. Je veux le nommer. Je veux toujours nommer les victimes d'accidents comme ceux-ci. Hein. Une des 4 victimes de la collision mortelle de 2021 à Beauport, le chauffeur. 2021, pensez-y, là. Ça semble être hier. Ça fait quand même quelques années. Donc, c'était à Beauport, le chauffeur Éric Légaré qui a refait l'actualité encore une fois hier. On a appris qu'il, une fois par mois, aura le droit à faire une sortie de 72 heures environ, sans surveillance, pour aller voir sa famille, pour entretenir les liens familiaux. Bon, il voulait entretenir des liens avec une femme de Laval aussi. Ça lui a été refusé. On ne sait pas trop c'est qui pour toi, puis de toute manière, on ne s'aventure pas là. Mais Dans ce système de droit et de justice qui veut toujours réintégrer les criminels dans la société, hein, on ne veut pas faire en sorte qu'ils soient exclus, on veut une réhabilitation sociale aussi de ces gens-là. Il faut penser aux victimes, il faut aller voir qu'est-ce qu'ils en pensent. On a assurément en tête le fait qu'ils sont un peu biaisés émotivement, sont choqués, ils sont là-dedans, ils baignent là-dedans. Mais grosse discussion que j'ai eue avec M. Fortin. Parce que dis-toi qu'il y a des parcelles de territoire de la ville de Québec où il ne pourra pas aller, Éric Légaré. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un risque qu'ils se croisent, ces deux hommes-là. Mm-hmm. Après seulement 4 ans en prison...
Sur 15 ans de prison.
Sur 15 ans de prison, il a le droit à ces sorties-là. Pâques s'en vient. Il n'y aura pas son petit gars, lui, M. Fortin, à ses côtés. Oui. Monsieur Légaré va pouvoir aller fêter Pâques avec sa famille. C'est toutes des choses dans lesquelles ça peut quand même venir entrechoquer nos émotions.
On se fait ça tantôt aux alentours de 12h40 avec un immense plaisir. Mais en attendant, si je te demandais 3 grosses nouvelles dans l'actualité avant le caucus, quelles sont-elles?
Dans les dernières heures, ce qu'on a appris, c'est que Roson a réglé à l'amiable son processus judiciaire en attendant la décision de la juge là, qui doit se prononcer sur la responsabilité civile de Gilbert Roson. Je vous rappelle qu'il est accusé d'agression sexuelle et de viol par 9 femmes. Il y a de son côté retiré sa poursuite en diffamation contre Julie Snyder et Penelope McQuaid. Une entente à l'amiable qui aurait été signée entre les trois parties au cours des derniers jours. C'est la presse qui nous révélait ça dans les dernières heures. Le procès devait commencer le 22 avril. Roson n'a pas souhaité commenter. Il a affirmé qu'il y a un communiqué qui serait publié bientôt. Ça a été ses premières paroles. Il avait déposé 450 000 $ contre les animatrices Julie Snyder et Penelope McQuaid. Il y a aussi quelques minutes, Julie Snyder a utilisé ses réseaux sociaux pour expliquer un peu sa version des faits. Alors, on en reparlera un peu plus tard, assurément. Le Canada qui a atteint pour la première fois depuis près de 40 ans, soit 1987, la cible du 2 % de PIB en dépenses militaires exigées par l'OTAN. Une hausse assez rapide des investissements en défense. Là. C'est rare qu'on ait vu ça dans les dernières années. On en jasait un peu. L'aspirante première ministre du Québec, Christine Fréchette, propose la création d'un système de salles d'attente virtuelles dans les urgences de la province. C'est un communiqué qui nous a expliqué le tout. On dit qu'à l'approche de leur tour, les patients devraient recevoir un appel, un texto pour leur demander de se présenter de nouveau au centre hospitalier où ils se sont initialement présentés. Je sais qu'on parle de ça avec Antonine dans quelques instants. Et le chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, Stéphane Lachance, rencontrait les médias hier. Lui exige des réponses concrètes avec les documents officiels de l'administration Marchand en lien avec le tramway. Alors, il veut pas juste des travaux avec des promesses verbales, il veut des papiers déposés sur la table.
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonine Iaccarini du lundi au jeudi de midi à 12h30. Anto, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Good. Ça va-tu mieux que Michael Rousseau?
Je sais pas comment il va, notre Michael, parce que...
Il s'en fout, finalement.
Ben, c'est ça, j'allais dire. Moi, d'après moi, il dort très bien la nuit. Ouais. Il doit s'éponger ses larmes avec ses 12 millions de salaire par année. Voilà.
C'est clair, tout va bien dans la vie de Michael Rousseau, même s'il ne parle pas un mot français. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Bon, motion déposée à l'Assemblée nationale. Le PQ avait dit, on va-tu dire oui, on va-tu dire non, parce que nous, c'est l'indépendance ou rien.
Ben oui.
Finalement, ils ont dit « Attends, là, t'as fait un petit « ben oui » là, tanné. Vas-y donc, explique-moi
ben non,
ça. »
C'est parce que moi, j'ai un problème avec les mots tadines de motion à l'Assemblée nationale. Okay. Je suis pas fan. Tantôt, tu disais « t'es pas fan de la chicane ». Moi, j'aime ça quand c'est constructif. Puis les motions sans préavis là, à l'Assemblée nationale, ouais. Comment ça fonctionne? C'est que tu peux réserver un sujet. Mettons, toi, t'es leader d'un des partis politiques qui a représenté à l'Assemblée. Là, tu dis « je réserve une motion sur Michael Rousseau ».
OK.
Puis là, le matin, tu vas envoyer un libellé, qu'on appelle. Ça, c'est le texte de la motion. Puis là, ça dit que l'Assemblée nationale condamne les propos et déplore telle affaire. Puis gna, gna, gna. Puis là, tu écris ton texte, puis là, tu envoies ça aux autres partis. Puis les autres partis peuvent de proposer des amendements. Donc, cette phrase-là, on n'est pas à l'aise, c'est là, nanana. Et toi, instigateur de la motion, tu peux refuser les amendements ou les accepter. Puis là, c'est toute une petite gamique politique parce que ces motions-là servent surtout à mettre tes adversaires politiques mal à l'aise.
Ben oui, c'est clair.
Fait que là, mettons que tu mets un amendement, ben, je vais le refuser parce que je veux que tu votes contre ma motion puis que je dise, voyez, il est contre la langue française parce qu'il est contre ma motion. Puis là, ça fait... Moi, là, je trouve... Pour vrai, si un jour je suis chef de parti, je vous le dis tout de suite, là, je vais m'abstenir sur toutes les motadines de motion qui sont pas entendues d'avance. C'est pas compliqué.
Ouais.
On peut-tu en parler
intelligemment? C'est là qu'on regarde la clip.
La clip?
C'est un jour tu es chef de parti.
Tu veux-tu
être chef de parti?
Vous pouvez, puis peut-être que ce sera pas possible de le faire, mais moi, je trouve qu'il y a certains sujets, surtout quand on envoie des messages à l'international, là, on ne devrait pas faire des motions sans préavis, c'est mon opinion. Donc, de là, mon roulement dû, je n'ai pas l'intention de faire mon plaidoyer anti-motion, mais tu as vu ma face.
Ben c'est ça, c'est pour ça que je t'ai fait réagir, tout simplement, c'est mon travail. Bon, Michael Rousseau, après 3 jours, il s'est excusé en français. Je suis profondément, mais en français par écrit, là, on s'entend.
Ben il est bon en français par écrit, hein?
Je suis profondément attristé. Je vais prendre un accent anglais, voir. Que mon incapacité à m'exprimer en français ait dévié l'attention du profond deuil des familles, bon, et de la grande résilience
au Canada.
Oublie ça,
il serait
jamais
capable de dire le mot deuil, là.
Non, exactement. Un auditeur nous écrivait « Ouais, après 300 heures de cours de français, je le trouve pas chant crime. Comment il fait pour gérer Air Canada? »
C'est honnêtement...
C'est de la frime, ça, le 300 heures.
Si c'est vrai, je m'inquiète des capacités de M. Rousseau. Je
veux dire, c'est clair.
Moi, là, si tu me donnes 20 minutes, je pense que je suis capable de donner des condoléances de base dans pas mal de langues, OK? Il y a pas toutes, là. Mm-hmm. Il y en a qui sont plus compliquées que d'autres. Donc, c'est vraiment extrêmement dur à comprendre. Moi, mon hypothèse, c'est que M. Rousseau a la même prof de français que la gouverneure générale.
Oui, ça c'est clair.
Il devrait la congédier. Donc, il est profondément attristé, on le croit, hein, quand il
ben
dit
oui.
ça, là, je le crois, c'est terrible.
C'est clair.
Le problème avec M. Rousseau, c'est que moi je trouve que c'est une controverse qui a pris énormément de place cette semaine. C'est dommage que ce soit devenu l'histoire principale parce que j'aurais préféré qu'on puisse rendre hommage à ses pilotes, qu'on ait davantage d'espace mental pour penser aux passagers et à l'équipage.
C'est exactement ce qu'un auditeur écrit. Ça a pris toute la place. Ça n'aurait pas dû
dommage.
Prendre toute la place. Ce qui aurait dû prendre toute la place, c'est les blessés, les familles endeuillées, l'accident. Qu'est-ce qu'on va faire pour éviter que ça arrive? Peut-être pas le français de Michael Rousseau.
C'est dommage. C'est sûr qu'on peut le reprocher aux Québécois puis dire c'est comme faire une crise du bacon dans une funéraille. Je comprends, OK? Mais le problème, c'est que M. Rousseau est à la tête, oui, d'une entreprise privée, mais d'une entreprise qui est soumise à la loi sur les langues officielles, qui a des responsabilités en la matière. Et surtout, c'est l'effet cumulatif, parce que Michael Rousseau, en 2021, quand il a fait sa conférence « In English Only » à la Chambre de commerce de Montréal, et qu'après, il est sorti devant les médias pour dire qu'il ne voyait pas c'était quoi l'enjeu, et que lui, ça fait des années qu'il vit à Montréal, puis qu'il n'a jamais appris le français, alors qu'on sait que le français est en déclin, alors qu'on sait que c'est un défi incroyable, surtout à Montréal.
Oui.
Une conférence en anglais à Montréal, on est dans un défi incroyable de préserver le français là, à Montréal en ce moment. Mais sa nonchalance et son désintérêt avaient choqué. Et à la suite d'une crise terrible, elle avait fini par nous dire « Bien, OK, je m'excuse et je vais apprendre le français. » Alors, 5 ans plus tard...
En plein ça. Moi, c'est cette promesse rompue-là. C'est ça que je mets à l'avant-plan, c'est la promesse rompue. Puis c'est pour ça que j'en ai contre Michael Rousseau. J'en ai pas contre le fait qu'il parle pas français. J'en ai contre le fait qu'il a dit « Je vais apprendre le français parce que je suis le PDG d'Air Canada », qui nous fait croire qu'il a fait 300 heures puis que, dans les faits, il est pas encore en français. Puis il y a un auditeur qui écrit « Voyons, si tu parles pas français, t'es incompétent, ça fait donc bien dur ce que vous êtes. » C'est pas ça qu'on dit.
Oh,
on
non.
dit juste que si, après 300 heures, t'as pas appris le français, t'as-tu vraiment une compétence de diriger une compagnie comme Air Canada?
Oui, puis ce qu'on dit, là, pour répondre à l'auditeur, c'est que c'est pas vrai là, qu'il a fait 300 heures. Là. Je m'excuse, là, mais tu serais capable de dire sincère
ben
condoléances
ben
aux
oui,
familles.
Voyons donc.
Je veux dire, c'est pas...
Ou tu serais capable de lire sur un télé souffleur, là, c'est sûr. Là.
Exactement.
Hey,
donc,
explique-nous
c'est
donc la différence entre Air Canada, qui est, autrement dit, une société d'État versus une compagnie privée. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question-là par texto.
En fait, ce n'est plus une société d'État depuis maintenant plusieurs décennies. Ça a été privatisé, je pense, dans les années 80, si je ne m'abuse. Par contre, étant une ancienne société de la Couronne, il y a une responsabilité en matière de langue. Donc, on demande à Air Canada de donner les services dans les deux langues, de communiquer dans les deux langues. Est-ce que ça veut dire que le PDG doit être bilingue? Là, on n'est jamais allé jusque-là. Donc, il y a une espèce de flou. Sauf que quand Michael Rousseau, le PDG, envoie un message sur les médias sociaux, donc fait de la communication publique cette semaine en anglais seulement, bien, il contrevient, effectivement, aux attentes. Il faut dire aussi qu'il y a quelques années, on a ajouté des exigences, en fait, dans son évaluation de performance. Il y a une partie de sa rémunération qui est liée à la connaissance du français. Ça a été ajouté.
Oui.
D'après moi, il laisse un peu d'argent sur la table, mais comme je disais un petit peu plus tôt, il n'est pas trop à plaindre.
Non, à 12 élevé. Millions.
Mais c'est ses compétences qui sont les plus importantes. On veut quelqu'un qui gère bien Air Canada.
Oui.
Et si M. Rousseau n'était pas capable de faire une conférence en français, honnêtement, je pense que tout le monde peut vivre avec ça.
Mm-hmm.
C'est vraiment le fait qu'il a l'air de s'en balancer complètement, qui vient, je pense, gratter un petit bobo, là, historique, là,
en effet.
Des Québécois qui ne se sentent pas respectés. Puis j'ai envie de dire les francophones, pas juste les Québécois, hein, ça va bien au-delà du Québec. C'est les francophones à travers le Canada qui se font dire « Hey, on est dans un pays bilingue, mais quand vient le temps d'être bilingue, c'est drôle, ça marche juste dans une direction. »
Excellente chronique de Thomas Mulcair, justement, dans le Journal de Québec, là-dessus, puis il explique que lui... Il y a justement des amis dans des universités anglophones parce qu'il enseigne qui se forcent à apprendre le français puis qu'eux autres disent non, Kim, ça se peut pas, là, 300 heures.
Ça
là,
se
là.
Peut pas.
Et là, m'a pris 50 heures puis je suis capable de faire des phrases en français puis je suis capable de dialoguer. Moi, là, j'ai fait ça, là, mettons, 60-70 heures de cours de perfectionnement en anglais. Je vais être capable de dialoguer. Je vais pas capable de donner une conférence de 2 heures, mais je vais être capable de dialoguer.
On a toutes des capacités différentes d'apprendre des langues. Là. On s'entend, là. Il y en a que c'est plus difficile que d'autres. Puis j'imagine que quand tu es un petit peu plus âgé, ça doit être un petit peu plus difficile que quand tu es plus jeune.
Ben oui.
Maintenant, tu sais, si toi, demain matin, tu devenais PDG d'une compagnie au Japon, on s'entend-tu que tu... c'est sûr que tu ferais tes meetings en anglais, tu enverrais tes courriels en
mais
anglais.
Mais par respect, je reprendrais du japonais.
Mais mettons que tu as 2 employés japonais qui sont décédés, là, d'après moi, tu serais capable de dire quelques mots en japonais, surtout avec un télésouffleur.
C'est clair.
Il y a une petite chose sur laquelle je ne comprends pas, mettons, les porte-paroles et tout ça. On voulait réagir rapidement et autres, mais tout le monde a déjà fait un exposé oral. Puis je pense qu'en politique ou dans une entreprise, des fois, tu as à prendre la parole, puis c'est préécrit ce que tu as à dire.
Ben oui.
Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, dans les communications, préécrit un petit passage en français sans qu'il soit super bon, qu'il l'ait appris par cœur, puis qu'il ait fait un clin d'œil justement aux gens francophones, aux pilotes québécois. Ou... Il y a vraiment là, dans l'opération, je pense, de gestion de crise-ish, là, manqué.
Bien, en fait,
un point important. On ne serait même pas dans le débat. Personne n'aurait observé qu'il n'avait pas encore appris le français et autres.
Bon, peut-être quelques personnes l'auraient observé, mais ça n'aurait pas pris l'ampleur que ça a pris. Mais la réponse à ta question, c'est que ce n'est pas une préoccupation. Tu sais, moi, j'ai déjà travaillé dans une multinationale où, à un moment donné, ça sort de nulle part, il y avait un nouveau slogan qui avait été choisi. Puis là, il était en anglais. Puis là, ça s'en va au com. Ça dit, ben là, vous trouviez l'équivalent en français. Ça se traduisait pas.
Mm-hmm.
Tu sais, il y a des affaires qui se traduisent pas en français. Mais quand les gens pensent en anglais puis que le français, c'est juste une traduction dans leur tête, ben ça donne des mauvais résultats. Puis d'ailleurs, il faut quand même saluer l'hypocrisie du gouvernement Carney qui, on s'entend, on n'a pas tout le temps des bonnes notes en la matière puis qu'il n'y a personne qui écrit des discours en français dans l'entourage de M. Carney qui déchire maintenant sa chemise. Moi, je dois vous dire aussi que cette affaire-là va avoir fait ressortir le pire, je trouve, de notre relation avec le reste du Canada parce que eux, j'ai vu beaucoup de commentaires sur les médias sociaux, j'ai reçu des messages, dont des messages plutôt haineux. Et eux, là, dans leur tête, là, c'est, les Québécois sont complètement inappropriés en ce moment, font une petite crise. Là, c'est, comme je vous dis, là, c'est comme si on faisait une crise de bacon au salon funéraire dans leur tête. Là. Et de notre côté, nous, on dit, ben voyons donc, il y a un des pilotes qui est Québécois, c'est la base. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de se faire respecter?
Vraiment?
Je te dirais que je pense que Michael Rousseau n'est pas très bon pour l'unité canadienne parce que ça crée vraiment division.
Vraiment, ça a créé une scission entre les deux. Avant de passer à quelques commentaires, parce que vous êtes beaucoup à réagir, Anto, faut que je te lance les fleurs qui sont envoyées par texto. Enfin, Antonine, une des femmes plus intelligentes que j'entends parler et une des plus belles femmes au monde. Boulevard entre les mains, un lingot d'or.
Ben voyons donc.
Fait que là, je viens de mettre ça dans ton sac à dos pour la journée.
Est-ce que c'est signé Dominique V? Parce que si oui, c'est
non,
mon chum.
Non, c'est pas
ça compte
signé
encore.
Dominique V, mais
jamais.
Si la personne veut bien s'identifier,
mais non,
le prendre. Steve qui mentionne, à l'inverse, est-ce que tous les PDG québécois parlent anglais et font l'effort? Pas sûr. Ben moi, je pense que oui, parce que c'est pas mal la langue universelle.
En fait, puis il y a beaucoup aussi de PDG anglophones qui sont basés au Québec et qui parlent un très bon français. Il faut le souligner, ça se fait. Il y en
exactement.
A. Je pense notamment au PDG du groupe Dynamite, M. Lotfi, pardon, qui parle un excellent français, même s'il y a un accent anglais. On s'en fout des accents anglais. C'est pas la perfection qui est demandée, c'est juste le respect de base. Et juste aussi pour ajouter là-dessus, le Québec, il n'y a pas 2 langues officielles au Québec. Alors, la langue du travail, c'est vraiment le français. Et pourtant, on est presque tous bilingues au Québec. Et vous le savez, là, quand on fait un meeting avec des gens, s'il y a juste un anglophone dans la pièce, bien, tous les francophones vont parler anglais. Fait que, honnêtement, je pense qu'on n'a pas à être gêné puis à se faire traiter de personnes repliées sur nous-mêmes. On parle davantage d'autres langues que les anglais.
D'accord à 100 %. Quelqu'un qui écrit, Antonine, tu vas à Montréal combien de fois, combien de restos, de dépanneurs, de boutiques, tu peux même pas te faire comprendre. C'est un excellent point.
Bref.
Puis d'ailleurs, je te fais entendre Soraya Martinez-Ferrada, la mairesse de Montréal qui a réagi sur les ondes de Mario Dumont à LCN par rapport à cette polémique-là entourant Michael Rousseau, mais surtout le fait que Michael Rousseau il se pète les bretelles en disant « Fait 17 ans, je vais à Montréal, puis j'ai pas besoin de parler français. »
Ce manque de respect, total envers la communauté francophone, envers Montréal, qui est la ville francophone la plus importante en Amérique du Nord. Et ce que j'ai dit hier, c'est tu as perdu la confiance de la communauté francophone. La légitimité que tu as de représenter non seulement la communauté anglophone, mais francophone, est importante. Puis tu as perdu cette confiance. Une fois que tu as perdu la confiance, qu'est-ce qui te reste?
Je pense que ça résume très bien.
Absolument. Puis honnêtement, il ne faut pas être gêné d'avoir certaines exigences. C'est drôle parce que, Jeff, ce matin, j'ai reçu une demande d'entrevue de la BBC.
Oui.
Et j'avais pas le temps de la faire, mais je me disais, comment je vais expliquer à des Britanniques qu'est-ce qui se passe? Puis je pense que c'est exactement ça. C'est qu'on est une nation de francophones qui essaie de garder sa langue et sa culture.
En effet.
Entourée d'un océan d'anglophones et dans un monde global où l'anglais prend énormément
on se bat,
de place.
Ben, on se bat depuis qu'on a pris un café sur les plaines d'Abraham.
Oui, ben là, ça, non, mais ça, c'est un appli-chat de bledin. En tout cas, ça, c'est une autre histoire.
OK, c'est beau.
J'aimerais sentir chez nos amis anglophones un intérêt.
Oui.
Juste un intérêt pour comprendre que c'est un défi très grand de préserver notre langue et que ce n'est pas pour exclure les autres. C'est simplement, pouvez-vous avoir l'air juste un peu intéressé? C'est ce que j'appelle le anglo-privilege, en fait. C'est de ne même pas voir la problématique.
Mm-hmm.
Et c'est ça qui finit, je trouve, par venir chercher les Québécois. C'est, mes amis anglophones nous disaient « Vous avez raison, puis je vais vous aider à préserver le français », parce que c'est ça aussi qui rend notre pays unique et la ville de Montréal unique. Je pense que ça calmerait beaucoup le jeu.
Ah, je suis tellement d'accord avec toi, Antonine. Merci beaucoup pour ce bon commentaire. Vous êtes dans le caucus avec Antonine Iaccarini. C'est de midi à midi 30, du lundi au jeudi. Bon, place au débat, Anto. Faut qu'on parle des salles d'attente virtuelles de Christine Fréchette.
Ouais.
Elle a promis de faire ceci si elle est élue première ministre. Et là, tu me corriges, je ne l'explique pas comme il faut. Mais dans le fond, tu arrives à l'urgence, tu t'en vas au triage et dis « Hey, sais-tu quoi? » Toi, là, tu viens de te casser le coude, mais on va te passer dans 5 heures. Fait que retourne à la maison, te mettre de la glace, mange un petit lunch, poup, je te texte quand c'est le temps, tu reviens à l'hôpital, puis là, tu vas être justement prise en charge. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée parce que Caroline Debine, là, tant qu'à traîner parmi les microbes à l'urgence, sac donc ton camp chez vous, puis tu reviendras quand tu veux. Mais tu n'étais pas de mon accord, explique-moi pourquoi.
Bien, en fait, je suis pas en accord. Là, je vais commencer déjà à nuancer, puis tu vas être déçu, puisqu'on ne se chicanera pas.
Je suis pas déçu du tout, si tu nuances.
En principe, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve qu'il y a beaucoup d'effets pervers à une telle proposition. Et mon deuxième problème, c'est que je pense que c'est inapplicable. Je pense pas qu'on est capable de déployer ça en ce moment. Donc, sur l'effet pervers, j'ai peur que, premièrement, on se mette à concentrer nos énergies sur calmer un symptôme, qui est que les urgences débordent, plutôt que de mettre nos énergies à régler le problème. Au Québec, notre réflexe, c'est d'aller à l'hôpital parce qu'on a un mauvais accès à la première ligne. Quand on dit la première ligne, là, c'est « je veux voir un médecin de famille ou une infirmière ou un autre professionnel de la santé parce que j'ai un problème de santé qui est non urgent, mais qui n'est pas urgent, qui doit être réglé dans les 15 prochaines minutes, là, mais que ça, c'est quand même urgent, puis il faut que je trouve une solution. Et on se retrouve à l'urgence parce qu'on n'a pas d'autres solutions. Et ça fait des années qu'on en parle, il y a eu toutes sortes de réformes de la santé. Là, en ce moment, il y a une vaste initiative pour inscrire davantage de gens dans les GMF. Il y a quand même pas mal de Québécois qui vont avoir un médecin.
Bien, vraiment, juste en capitale nationale, c'est au-dessus de 60 000 personnes là, qui ont 60 000 patients vulnérables qui sont pris en charge. Là. Pascal Renaud, le président de la Fédération des médecins et praticiens de Québec, nous l'a confirmé.
Mais on sait, puis Santé Québec nous le répète régulièrement quand ils font leur mise à jour sur les urgences, les cas qui se retrouvent à l'urgence, ce n'est pas des cas qui devraient être à l'urgence en principe. Maintenant, ils sont là, ils existent, les urgences débordent, et attendre 8 heures à l'urgence avec un bébé qui pleure dans les microbes, ça n'a aucun sens.
C'est
donc, je suis sensible à ça, puis tu sais, on l'a tous vécu. On l'a tous vécu, puis c'est vrai que rentrer à la maison puis de se faire dire, écoute, on va t'envoyer un texto pour te dire qu'à revenir, ça a l'air d'une bonne idée. Mais j'ai l'impression que ça enlève nos yeux du véritable problème. Et aussi, dans l'inapplicabilité, c'est que je vois, c'est qu'on va te dire, ben tu peux revenir, puis tu vas arriver. Mais s'il y a 2 ambulances qui arrivent, c'est fini, là, tu vas réattendre.
Non, je sais. Ça, c'est un bon point que tu amènes, honnêtement. On en parlait tantôt hors d'onde, j'adore ce point-là. Moi, je le vois comme une première marche vers la télémédecine. Tu penses quoi de la télémédecine? Moi, j'en ai bénéficié
pour ça.
En ayant des assurances privées pour d'autres entreprises
ben
que
oui.
J'ai travaillées. C'est justement, le bonheur total.
Élargissons l'accès à télémédecine. OK, parce que c'est quoi les cas les plus qui vont faire en sorte que tu vas attendre le plus longtemps dans une salle d'urgence? OK. Par exemple, une infection que tu dois régler, genre infection oui. urinaire, là, les filles savent de quoi il est question ici. Si tu laisses ça aller, c'est une infection de la vessie, des reins, ça peut être très, très en grave. Effet. Mais en même temps, tu sais, pendant que tu l'as, ton infection urinaire, tu n'es pas en souffrance, ça rentre sur une civière non plus. Puis là, quelqu'un qui n'a pas de médecin de famille va appeler, va essayer d'avoir une plage de rendez-vous, pas de rendez-vous. Et là, les jours passent, mais tu peux pas passer deux semaines de même. Là.
Non, exactement.
Là, ils finissent par se rendre à l'urgence.
Même principe pour tout ce qui était un petit peu plus élevé. Là. Streptocoque, laryngite, bronchite,
pneumonie, otite. T'as ton enfant qui fait de la fièvre très forte depuis un nombre d'heures. Puis là, tu sais, il est écrit qu'il faut que tu vois un médecin. C'est à partir de... Fait que là, tu passes des heures avec ton bébé qui braille dans la salle d'urgence. Fait que moi, je pense que déjà, si jamais ce projet pilote devait avoir lieu, je pense qu'on devrait d'abord prioriser les jeunes enfants vraiment, parce que on ne peut pas dire aux parents, ben venez pas à l'urgence. Moi, j'ai toujours eu peur, force de lancer ce message-là, de se dire qu'on on va en perdre un bébé, là, parce que ça peut arriver une méningite. On a vu cette semaine, il y a eu un cas vraiment
très triste. À Gatineau, là, très triste. Là, asthme très sévère, une petite fille de 4 ans qui est décédée. Il y a une enquête du coroner qui a été lancée. Donc, c'est pour ça que je pense qu'en tant que parent, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te rendes à l'hôpital.
Puis il ne faut pas trop niaiser avec ça. C'est sûr que ça serait mieux s'il y avait un médecin ou de la télémédecine.
Ouais, j'aime que tu parles de projet pilote avec les jeunes enfants. Ça m'allume, honnêtement.
Bon, regarde, tu vois, c'est déjà entendu. Pas moyen de se chicaner ici.
C'est vrai, on ne chicane pas, moi, puis toi. C'est plate, c'est
plate. Puis l'autre élément, Jeff,
on va laisser Karine Gagnon chicaner que Stéphane Lachance.
Ben oui, là, ça, on a déjà une chicane aujourd'hui, c'est assez.
Ah, OK.
Puis l'autre élément, c'est vraiment sur l'applicabilité, parce que je t'avoue que ma foi de déployer des programmes et des projets de type technologique dans notre système de santé, je me dis, on est mieux de choisir nos combats. Ouais. On n'a pas encore réussi à sortir le fax. Là, j'imagine. Moi, ce que j'ai peur aussi, c'est qu'en essayant d'instaurer un nouveau système dans les urgences, là, ça soit encore plus long dans les urgences, parce qu'ils sont déjà tellement débordés, le personnel des urgences.
Que là, le temps de faire l'affaire.
Puis c'est comme, non, mais là, attends, faut que tu utilises mon nouveau système, madame l'infirmière, puis,
Moi, c'est un bon point. C'est un bon point que j'avais pas vu.
Je suis un peu cynique.
C'est pour ça que moi, je me lance plus vers la télémédecine. Puis là, on a des bons textos qui sont rentrés justement là-dessus, en disant qu'il y a déjà, justement, des télémédecines qui existent. Puis on pourrait commencer avec un projet pilote avec eux, parce qu'on s'entend, ces télémédecines-là ne seraient pas capables de recevoir tout le monde.
Exact, mais ça devrait pas être en rapport avec l'urgence, c'est juste ça. Moi, dans ma tête, t'as pas allé t'enregistrer à l'urgence. Tu passes par le numéro de téléphone, là, c'est le 811.
Ouais.
Puis on dit, ben là, je vois pas de plage de rendez-vous. Par contre, on pourrait vous faire faire, vous pourrez vous mettre en file d'attente pour de la télémédecine. Pourquoi mêler l'urgence à ça?
J'aime ça, ton idée. Ouais, tu m'as convaincu.
Arrêtez d'envoyer le monde à l'urgence, maudit.
Non, tu m'as convaincu, j'aime ça. Tu deviendras chef de parti politique, là, comme t'as dit tantôt.
Puis il n'y aura pas de motion, puis il n'y aura pas d'urgence, OK?
Ouais. Je te fais entendre la publicité de Simon Jolin Barrette qui s'attaque au stratagème de fraude.
Des vedettes québécoises se retrouvent bien malgré elles dans de fausses publicités.
On met dans le coin le logo d'un média, dans l'autre coin la photo d'une personnalité.
Ici, c'est pas Marie-Pierre Morin, c'est Émilie Bégin, Gino Chouinard, Guilla Lepage.
Et c'est une arnaque pour aller vous soutirer de l'argent.
Bon an, mal an, des milliers d'internautes se laissent tenter. Cliquent sur ces publicités.
Ils volent l'image de personnalités connues, adulées du public québécois afin de vendre des produits qui ont toutes les chances de ne pas fonctionner du tout.
Ça fait des différents... Ça fait un peu différent d'être utilisé pour se faire avoir et frauder que d'être sur des sites de rencontres, par exemple.
Oui, exactement. Ben là, dans le fond, c'est la publicité. Il écrit à la fin, les stratagèmes de fraudeurs ne cessent de changer. Les lois doivent aussi évoluer. Là, on a le petit logo, votre gouvernement.
Ouais.
Simon Jolin Barrette, là, pourquoi il s'est pas présenté à chefferie de la CAQ? Il me semble qu'il est toujours sa coche à chaque fois qu'il fait une intervention. Je l'aime donc bien, lui.
Moi, je pense qu'il a l'impression que le prochain chef de la CAQ, ça va être un chef de transition. Puis il veut se garder en réserve de la République pour un meilleur contexte.
Parce qu'on fait juste regarder cette semaine. Hey, on va augmenter, on va durcir le P38. Comme ça, les gens qui sont en crise de santé mentale, on va les forcer à être hospitalisés. Là, aujourd'hui, les fraudeurs qui utilisent les artistes, puis là, on a eu plein de cas dans les médias. Là,
puis là, c'est pour ça que j'ajoutais les sites de rencontres. Ça a mal sorti tantôt parce que j'étais dans une autre nouvelle, là, mais c'est aussi les sites de rencontres. Faites attention de ne pas vous faire avoir, parce que là, on parle de ces plateformes-là Et celles-là ne sont pas abordées dans le projet.
Non, en effet. Tu sais, notamment le pauvre petit monsieur qui pensait qu'il parlait à Laura Fabien, là, puis qui finalement il parlait pas à Laura Fabien.
La madame qui envoyait de l'argent à Brad Pitt aussi.
Ouais,
ben
exactement.
Oui, pauvre Brad Pitt.
Pauvre madame, pauvre Brad Pitt, pauvre tout le monde là-dedans.
Bang, frappe encore un coup de circuit avec ça. La loi de la laïcité présentement est à la Cour suprême. C'est lui qui a amené ça. Let's go, close des regards.
Très politique.
Il est donc ben bon.
Oui, vraiment. Et toujours à l'avant de la parade de M. Simon-Jolin Barrette, oui, ministre de la Justice. Il faut dire aussi qu'il a le dossier de la protection du consommateur. Et ça, c'est un dossier. Parce que la justice, des fois, ça peut sembler un peu d'un nuage, un peu loin du monde. Mais la protection du consommateur, c'est très proche du monde portefeuille.
Vraiment?
Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il s'est attaqué aussi cette année au coût des billets. Tu sais, les
c'est vrai, les revendeurs.
Il s'est attaqué l'année passée.
L'Ontario est en train de le copier, d'ailleurs.
Absolument. Il s'est attaqué l'année passée aussi à la question de la sextorsion des sextos. C'est vraiment...
Il a remis 4 millions là-dedans cette semaine.
Un ministre très actif, très proactif et très prolifique. C'est ce qu'on appelle un réformateur, honnêtement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un ministre de la Justice aussi prolifique au Québec.
Il a fait des belles choses tout au long des dernières années. Je pense qu'en tout cas, il a été proactif, effectivement, mais encore plus cette année. Ça coïncide avec le départ de M. Legault. Y a-t-il quelque chose à faire comme corrélation là-dedans? Est-ce qu'il y avait un peu plus de liberté cette année vu que M. Legault quittait?
En fait, c'est que moi, je le trouve pas plus actif cette année. C'est juste qu'il fait plus de choses différentes. C'est que pendant longtemps, il a travaillé sur son projet de loi sur la langue. Et ça, là, il faisait moins plein de choses en même temps parce que ça a été toute une opération politique dans cette affaire-là. Puis quand Simon-Jolin Barrette fait un projet, il prépare le terrain avant. Bon, pour la Constitution, le préparage de terrain, la préparation de terrain était un petit peu moins peut-être
ouais,
au
ça,
rendez-vous.
Je vais lancer une pierre dans l'ac de François Legault, son premier ministre, qui a sorti ça en pompe dans un discours. Puis il a comme fait « Ouais, OK, pas le choix, on y va ».
Bien, puis je pense que le ministre poussait depuis longtemps pour son projet de constitution, puis le cabinet du premier ministre n'était pas convaincu que ça touchait vraiment le monde, puis là, ouais, c'est arrivé bien, bien tard dans le mandat. Bon, cela étant dit, pour Simon-Jolin Barrette, il faut dire que là, il y a un projet de loi qui a été déposé ce matin. J'ai bien hâte de voir comment ça va fonctionner parce qu'il y a une des problématiques, c'est les plateformes numériques. Mm-hmm. Parce qu'on signale, toi, par exemple, tu ferais l'objet d'une publicité, puis là, tu vendrais des suppléments de protéines pour avoir, ouais, des gros muscles.
Bien, bien, parce que tout le monde sait que j'ai des gros bras.
Exact. Fait que là, t'entends Jeff.
Au gym, moi, là.
Il y a des fakes de Jeff avec ses gros muscles qui vend les suppléments. Là, le monde tombe dans le panneau.
C'est
là,
ça.
Toi, tu vois ça. Il y a quelqu'un qui dit tu vends des suppléments, mon Jeff. Je vends pas des suppléments partout. Fait que là, tu veux signaler ça.
Et non, parce que je leur dis, moi, c'est naturel. Pas
oui,
besoin de suppléments.
Non,
pourquoi je vendrais ça?
Ben, c'est ça. Fait que là, tu voudrais faire une plainte, tu signalerais la publicité, tu essaierais de parler à quelqu'un chez Meta ou chez X. Hey, ils s'en foutent, là. Comme de l'an 40. Eux, ils vendent des pubs. Puis les pubs frauduleuses, là, je te dirais que ça ne les empêche pas de dormir la nuit. Fait que j'ai hâte de voir pour le projet de loi, on va donner certains leviers, notamment aux policiers, parce qu'avant, tu disais, bon, OK, je vais aller voir la police. Puis la police disait, oui, mais c'est pas vraiment interdit. Tu sais, il n'y a pas de loi là-dessus. Donc, ça va changer quelque chose. Mais dans la mise en application, j'ai hâte de voir, ça va vraiment changer quelque chose. Et en terminant, il faut dire aussi que les projets de loi qui sont déposés présentement risquent de mourir tous au feuilleton, étant donné qu'avec l'arrivée d'un nouveau chef, d'un nouveau premier ministre, ouais, le 12 avril...
Mais ils avancent tellement bien ces dossiers que ça me surprendrait que ça meure tant que ça.
Ben, ils vont les redéposer. Mais il va falloir voir aussi c'est quoi les priorités du nouveau chef ou de la nouvelle chef. Moi, je pense que ça, c'est un bon projet de loi qui risque d'être priorisé. La Constitution?
Non.
Pas sûr.
Moi non plus. Mais bref, mon étoile la semaine en politique à Simon-Jolin Barrette. Antonine Iaccarini, c'est toujours un grand bonheur de t'avoir avec nous du lundi au jeudi, de midi à 12h30. Je te souhaite un bon week-end, une bonne présence sur les ondes de RDI demain, 14h. Et on se parle, nous, lundi.
À lundi.
Salut, à lundi. Après la pause, Pascal CV nous a préparé un excellent dossier avec un père endeuillé qui voit un chauffeur puni de 15 ans de prison, pouvoir avoir des droits de sortie avant même sa quatrième année complétée derrière les barreaux. Ça ne fait aucun sens. Et Karine Gagnon vient s'asseoir avec nous en studio. On va parler entre autres de financement de tramway, de façon très bizarre de communiquer du maire Marchand et de son équipe, et du chef de l'opposition, Stéphane Lachance, qui tourne les coins ronds pas à peu près. C'est tout ça qui vous attend dans quelques instants à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1.
Fini jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Émission On en jase à Boulevard 102.1. Il est précisément 12h40 sur notre page YouTube. Allez vous abonner. Il y aura le caucus avec Antonine Iaccarini. Caucus très intéressant. Vous avez interagi beaucoup sur Michael Rousseau et son français. Beaucoup de gens qui sont tannés d'en entendre parler, mais qui réagissent beaucoup. Ça fait toujours parler la langue française. Dans quelques minutes, je vous dirai dans une dizaine de minutes, 10-12 minutes, on va s'entretenir avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique pour le Journal de Québec. Chronique très intéressante sur la communication boiteuse de Bruno Marchand et sur Stéphane Lachance, qui ne joue pas bien son rôle d'opposition officielle. Ça résume pas mal ce qu'on dit depuis une couple de semaines, moi et toi, Pascal, à l'émission On en jase. Alors, ça va être intéressant d'en parler avec Karine Gagnon et d'avoir un autre point de vue. Pascal, quelle est la grosse nouvelle avant que tu nous présentes ton dossier sur ce chauffeur qui a déjà une permission de sortie, c'est-à-dire Éric Légaré?
C'est super dur à choisir aujourd'hui parce que t'en as sur Québec, entre autres la CDPQ Infra qui a annoncé aujourd'hui l'identité des deux consortiums privilégiés là, qui vont assurer la conception, la réalisation de tous les systèmes, l'ouvrage du tramway de Québec. Ceux qui, pendant ce temps-là, réclament, comme Stéphane Lachance, qui est papier sur la table dans l'évaluation financière du dit projet avant de continuer. T'as Gilbert Rozon qui a fait l'annonce, entre autres, par communiqué qu'il arrête la poursuite contre Julie Snyder et Penelope McQuaid parce qu'ils ont réglé ça à l'amiable. Par contre, la décision de la juge qui doit se prononcer sur la responsabilité civile de Gilbert Rozon, qui est accusé d'agression sexuelle et viol par 9 femmes, ça continue. Là. Le procès devait commencer le 22 avril en ce qui concerne la poursuite de M. Rozon, mais pour le reste, c'est encore d'actualité. Puis après, ben, t'as le Canada qui a atteint les 2% de son PIB en dépenses militaires. Ouais. C'est ce qu'a confirmé l'OTAN. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant d'investissements de la part du gouvernement fédéral. Là, McCartney a décidé que c'était 3 milliards de dollars supplémentaires dans les infrastructures militaires du Canada atlantique.
Dossier très important, c'est-à-dire hier, décision des libérations sous condition où on permet à Éric Légaré, ce chauffeur récidiviste qui a tué 4 personnes en avril 2021, d'aller passer un week-end de 72 heures dans sa famille. Alors qu'il avait été reconnu coupable, il a reçu une sentence de 15 ans de prison, mais même pas 4 ans plus tard, il pourra retrouver une certaine liberté le temps d'un week-end. Et là, Pascal, tu t'es entretenu avec un homme qui, avec raison, n'est pas d'accord avec cette décision-là.
2021, là, dans ma tête, j'ai fait un petit saut hier parce que je me disais, 2021, ouais. Dans ma tête, c'était hier que c'est arrivé cet accident-là. Tout le monde a été percuté, puis c'est un mauvais mot peut-être, mais c'est pas choisi, par la mort de ces 4 victimes-là là, dans la collision mortelle sur Dufresne-Montmorency, par un gars qui s'est tanké littéralement là, dans un pub tout l'après-midi, qui a pris son auto, bedding dans l'auto en avant, bedang dans l'auto en arrière, pogne l'autoroute, envoie à sens inverse, revient sur l'autoroute dans le bon sens, mais n'arrête jamais et frappe de plein fouet une voiture où se trouve, entre autres, Jackson Fortin. Jackson Fortin, c'est un des 2 enfants qui était à l'intérieur de l'habitacle. Puis Daniel Fortin, l'homme à qui j'ai parlé ce matin, c'est son père. Son père qui est toujours en deuil. Fait qu'imaginez pour nous, si ça semble pas faire longtemps, cet accident-là, bien, imaginez pour Daniel Fortin, qui, lui, ne voit plus son fils, ne pourra plus jamais accès à son fils. Et pensait qu'en cours, il y a quelques années, bien, Éric Légaré, au moins, s'était ramassé 15 ans pour y être 15 ans. État d'ébriété au volant qui en fait des morts. Écoute, tu penses pas revenir en cours pour apprendre par les libérations conditionnelles que celui qui a tué ton fils va avoir le droit, le privilège à 72 heures mensuellement sur le territoire de la ville de Québec sans supervision pour aller voir sa famille parce qu'on pense que les liens familiaux doivent être entretenus entre lui et sa famille. Bon. Parenthèse quand même, il a demandé à avoir une permission pour aller voir une femme à Laval. Ça lui a été refusé. Mais à la suite de la nouvelle d'hier, moi, j'ai parlé à un père éploré qui en a marre complètement, qui a mal. Il parle de sa première réaction quant à cette nouvelle.
Barrage. Première, c'est barrage. La déception. Déception du système de justice. Je comprends pas pourquoi que sur une sentence de 15 ans et 15 jours plus le temps qu'il a fait, mais donc qu'il avait fait avant de sa sentence, donc mettons 16 ans, qu'après 4 ans il peut déjà aller 72 heures par mois dans sa famille. Ça veut dire qu'à part qu'il risque d'être avec sa famille, faire la chasse au coucou de Pâques avec ses nièces puis sa famille. Tandis que moi, chez nous, il va avoir un panier vide qui va attendre. C'est ça.
Je le comprends tellement d'être enragé.
Enragé, triste, c'est comme sa première réaction, la rage dont tu parles.
On le serait tous.
c'est vrai, là, l'image qu'il donne, là, à part que nous, on va être avec notre famille, puis tout ça, puis lui aussi, M. Légaré, ouais. Ben, Légaré, Éric Légaré va pouvoir le faire. Pense-y, là, Daniel Fortin, il a plus son fils. Pour aucun souper de famille, pour aucun pour rien. Parce que Légaré, c'est un récidiviste en matière d'alcool puis d'alcool au volant. J'ai demandé à M. Fortin de commenter en partie le rapport explicatif de la décision qui mentionne qu'Éric Légaré va avoir le droit de sortir chaque mois de prison, puis sans surveillance, je le répète, malgré le fait qu'il soit émotivement impliqué, là, comment il a réagi, puis comment a réagi le reste de la famille?
Ben, c'est sûr que je suis biaisé, mais en même temps, je ne sais pas si vous avez lu le rapport au complet ou si vous avez juste eu des bribes, mais ils disent que lors de son incarcération, c'est un détenu exemplaire. Je m'en doutais que c'est un exemplaire. Il a pas consommé. Donc ils ont dit, tu sais, depuis le début de votre incarcération, vous avez arrêté de boire, t'sais, de prendre de l'alcool, puis qu'on soit arrêté de consommer alors qu'il est en prison. On sait qu'il y a de la drogue puis de l'alcool en prison. On sait, mais il peut pas aller à la cantine chercher une caisse de 24. Fait que ce côté-là, c'est un peu une claque d'en face. T'sais. Dire, ah, ben, tu sais, tu bois plus. Depuis 5 ans, tu conduis plus ta voiture. Ben non, tu es en prison. C'est un peu dur de conduire ta voiture. Hein.
Puis on le comprend tellement, la réaction, parce que moi, je suis pro-réhabilitation sociale, puis je suis content de voir qu'un détenu a un bon comportement à l'intérieur, puis qu'il travaille sur lui-même, comme Éric Légaré le fait. Mais où est-ce que je ne comprends pas, c'est le fait que ça arrive si tôt dans le processus, alors qu'il y a 15 ans d'incarcération comme sentence.
Puis moi, je suis en désaccord avec toi là-dessus, parce que je suis un peu sonné par ce qu'a dit M. Fortin. C'est vrai qu'en prison, bon, il y en a qui le font, puis ça, c'est un problème carcéral, mais
oh oui.
Si tu consommes pas d'alcool, si tu consommes pas de drogue, tu es considéré comme étant quelqu'un qui veut s'améliorer. Mais t'es pas supposé, on n'est même pas supposé avoir ce discours-là.
Ouais.
Commencer à réfléchir sur le fait qu'il n'en prend pas en prison. Il me semble que c'est même pas un enjeu. Ça devrait pas être une discussion. Ça devrait pas être un point. Tu sais, je le comprends, M. Fortin.
Ouais, moi, je sortais la drogue et l'alcool là-dedans.
Mais c'est comme ça dans le rapport que c'est écrit. Puis c'est pour ça qu'il est considéré comme étant un
sans
bon
problème.
Prisonnier. Puis il a renchéri, M. Fortin. Il dit pour lui, Légaré pense juste à lui.
Oui, tout le monde n'en revient pas. Tu sais, les blessures sont pas encore... Puis ça, j'en parlais la semaine dernière, là, ben, quand on est allé en commission. Tu sais, je veux dire, on a de la difficulté à penser les blessures, parce que lui, à chaque 6-8 mois, il fait une demande de sortie. C'est sa quatrième demande de sortie en 4 ans. Fait qu'on recommence pas à zéro, mais on est tout le temps dans les grosses émotions à cause que cette personne-là, il est encore, on voit tout de suite qu'il est encore imbu de lui-même, puis qu'il y a seulement lui de qui est important dans toute cette histoire-là. Tu sais.
Clairement d'accord. Ça fait 4 ans en ligne qu'il demande un permis de sortie.
Au six mois,
c'est qu'il pense pas du tout, il assume pas du tout les conséquences de ses actes. Pleinement d'accord avec M. Fortin.
Tu sais, notre système de droit veut prendre la réhabilitation sociale des prisonniers. Mais quand tu es directement concerné, puis tu vis ce que M. Fortin vit, je pense que ça prend une toute autre ampleur.
Dans la décision, ou quand ils disent qu'il mérite, bon, avec tout ce qu'il fait en prison, ben, c'est un prisonnier modèle, il mérite de commencer à sortir. Ben, je m'excuse, il ne mérite absolument rien. Cette personne-là, Éric Légaré, ne mérite absolument rien. Il profite d'un système de justice qui est défaillant, puis que encore une fois, les victimes, on passe en deuxième. C'est tout le temps le prisonnier qui passe en premier, puis les victimes, on passe deuxième. Ça fait qu'ils profitent encore une fois d'un système de justice défaillant, puis ils pensent qu'à lui.
Et ça, oui, les libérations conditionnelles sont beaucoup trop souples pour laisser un gars comme ça sortir après à peine 4 ans derrière les barreaux pour une sentence de 15 ans.
Dans ma conversation avec ce père de famille-là qui a perdu son jeune fils Jackson, tu te demandes tout le temps, est-ce que tu as l'impression d'eux? Est-ce que vous avez l'impression que si, que ça? Puis pour lui, je me suis toujours demandé s'il pensait que M. Légaré, Éric Légaré, j'ai tout le temps de la misère à dire monsieur là, dans ces cas-là, mais est-ce que vous pensez que Légaré éprouve des remords selon vous? Ça a été ma question.
Non. Non. S'il y avait des remords, il ne ferait pas vivre ça à tous les 8 mois. Si, admettons, là, admettons que je serais dans cette on inverse les rôles là, puis que j'avais des vrais remords là. Je me tiendrais tranquille les premières années, me semble. Tu sais, je laisserais la poussière descendre, autant pour les victimes, mais surtout pour ma famille. Parce que sa famille, elle lit aussi, ils entendent les médias, ils lisent les médias, puis ils sont au courant de ce qui se passe, puis de ce que le monde dit. C'est sûr, je les connais pas, mais j'ose imaginer. Fait que, il me semble que moi, je resterais tranquille les premières années, me ferais oublier. Mais non, lui, on continue. Ah ouais, je sais pas s'il cherche l'attention, j'ai aucune idée. Mais à faire 4 demandes en 4 ans, on voit tout de suite que ce qui est important pour lui, c'est lui-même. C'est Éric Legaré, lui, puis lui tout seul, puis les autres, on s'en fait.
Oui, oui.
Je suis un peu agressif, là. Vous pouvez me comprendre un peu, là.
Je le trouve pas du tout agressif, je le trouve sensé dans sa prise de position. Parce que, en effet, moi, ce qui présentement... T'sais, tantôt, j'ai dit, ouais, je trouve ça le fun qu'un prisonnier fasse un cheminement personnel, mais avec ses demandes à répétition, j'ai tendance à croire que ce prisonnier-là ne fait pas son cheminement personnel. Donc, je suis très d'accord avec ce que M. Fortin dit.
Pour ma dernière question, elle n'engage que moi et aucun autre de mes collègues. J'ai essayé de la poser de la façon la plus humaine possible. Vous allez voir, je repose ma question un moment. Mais je vous laisse aller chercher ce que vous voulez aller chercher dans ce que vous allez entendre. Éric Legaré, il n'aura pas le droit d'aller sur certaines parcelles du territoire pour essayer de ne pas croiser la famille des gens qui sont décédés, tout ça. Mais il n'est pas impossible que M. Fortin le croise, veut pas, là. Tu sais, je veux dire, l'ange gardien, c'est qu'une parcelle du grand territoire de la capitale nationale. J'ai demandé s'il avait pensé à ça, le fait qu'il pouvait peut-être croiser Éric Legaré.
Oui. Je vais m'abstenir de commentaires.
Vous allez devoir utiliser beaucoup de self-control?
Je vais m'abstenir de commentaires.
Je comprends. S'il vous plaît. Non, je comprends. Je comprends.
Et c'est tout à fait normal qu'ils ne veulent pas le recroiser. Là, on s'entend, il est encore très en deuil comme père de famille, qui ne serait pas.
Mais moi, ce que j'entends,
je pense
c'est...
à tous les papas et tous les mamans à l'heure actuelle.
Mais ce que j'entends, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de savoir quelle va être sa réaction si ça arrive, tu sais. C'est tôt, c'est beaucoup. La première chose que les gens disent à chaque fois qu'arrive un drame de ce type-là puis qu'on en parle en ondes, c'est « si ça arrivait à mes enfants, je sais pas ce que je ferais. » Puis chaque fois, depuis 13 ans à la radio, je réponds la même chose que j'ai répondu à mon père qui un jour a assis ses trois filles devant lui puis a dit « si quelqu'un vous touchait d'une manière ou d'une autre, je ne réponds plus de mes actes. » Puis moi, j'avais répondu « ouais, mais pas en prison, c'est encore pire pour nous.
Mm-hmm.
Si t'es en prison, c'est pire pour nous. » Puis ça me ramène à cette réponse-là très courageuse et très parlante d'un papa que j'avais au bout du téléphone ce matin qui me dit « oui, j'y ai pensé, mais ça ne me tente pas de répondre plus à la question.
Ouais. »
Puis j'espère que Daniel Fortin est bien entouré, parce qu'en tant que papa qui a perdu son petit gars, Jackson Fortin, en 2021, dans un accident aussi terrible que celui-là, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ressenti qui doit être dur à gérer.
Non, en effet, nos pensées sont avec Daniel Fortin, qui est une victime collatérale là-dedans, qui est une victime d'avoir perdu son fils. Il ne pourra pas bénéficier. Il ne pourra pas donner de l'amour à son fils comme il aurait voulu en donner dans sa vie. C'est un événement très triste. Je me joins à Steve Pascal qui écrit « Bravo Pascal, belle entrevue. » Pas facile comme discussion. Non, vraiment pas facile. Continuez à interagir au 418-971-1021. On va souhaiter qu'à force d'en parler dans les médias de dossiers comme ça, bien, les libérations conditionnelles prennent des décisions qui vont plus dans le sens de la décision d'un juge que donner une peine de prison de 15 ans. Merci beaucoup, Pascal.
Plaisir.
Jusqu'à 14h.
Boulevard 102-1. C'est ça l'émission d'Angers. On y va de discussion plus en profondeur. Très bon dossier, Pascal CV, avec le père de famille éploré. Daniel Fortin qui voit le chauffeur qui a tué son fils et trois autres personnes bénéficier de sortie de prison déjà. Après à peine 4 ans derrière les barreaux, alors qu'il a été, justement, il a reçu comme sentence 15 ans d'emprisonnement. On se lance en politique municipale. On en parle énormément. Les travaux du tramway, comment ça va au centre-ville. On a parlé avec des citoyens qui nous disent « C'est le bordel, j'ai pogné des tickets, ouais. » Puis c'était mal signalé. On parle avec des commerçants qui disent « Crème, je suis arrivé sur Crémazy lundi, puis c'était fermé, puis je le savais même pas, puis mon commerce est là. » Et ça l'a inspiré une excellente chroniqueuse pour le Journal de Québec, Karine Gagnon, pour un texte ce matin sur la façon de communiquer de Bruno Marchand qui est déficiente. Karine Gagnon, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Merci à vous de l'invitation.
Ça fait plaisir. Karine, on en parle depuis au moins une semaine et demie, deux semaines sur le plateau d'On en jase à dire... Il me semble que les ficelles sont pas bien attachées avec les travaux du tramway. On parle avec Marie Langlois, la directrice générale de la SDC Montcalm. Elle dit « J'apprends des choses à dernière minute ». Puis là, on a vu le maire partir en Alberta la semaine passée. On a parlé avec Alicia Despins, une ancienne conseillère municipale qui est chroniqueuse pour nous. Elle dit « Ouais, le timing est pas bon ». T'es vraiment pas bon, ce timing-là.
Pour partir en mission, ouais. Ben moi, je trouvais que ça, ce que j'ai écrit ce matin, c'est que je trouve que ça, c'est une mission qui aurait dû être faite en amont, tu sais, dans le premier mandat, parce que là, on planifiait justement le début de ces travaux-là. Une fois qu'ils sont en cours, la job du maire, d'après moi, c'est d'être ici, puis d'aller à la rencontre des gens, puis de s'assurer que les relations, les communications se passent bien, là, tu sais, avec tous ceux qui font les travaux, bon, que les commerçants, les citoyens soient avisés un petit peu d'avance. T'sais, nous, on avait des témoignages de commerçants qui disaient « on l'a su à trois jours d'avis ». Puis là, leurs clients venaient, bon, que ce soit dans un restaurant ou un salon de coiffure, puis là, il y avait un ticket.
Pogner le ticket de 180 piastres.
Oui, puis tu sais, il aurait pu aussi, c'est ce que j'écrivais dans ma chronique aussi, c'est qu'il aurait pu accorder une période de grâce. T'sais, ça se fait, oui. Là, t'sais, étant donné que c'était un gros changement... Là, c'est pas supposé d'être une trappe à tickets, comme on dit, là.
En plein ça. Y es-tu trop défendeur de la machine municipale au détriment du citoyen? T'es parce que encore cette semaine, en conférence de presse, il disait « Non, non, ça va bien, t'sais, c'est le chaos, mais ça va bien, puis c'est normal le chaos, mais... » Le citoyen, le commerçant, le payeur de taxes, il vit ce chaos-là. Là.
Bien, la machine municipale, c'est lui qui l'amène, en principe. Là.
C'est ça.
Donc,
hein?
Il est supposé de faire le lien, il est supposé de s'assurer que toute la communication est faite en temps voulu. Tu sais, ça fait des années qu'on le dit que ça va être difficile, la période des travaux. Moi, j'en ai vu des projets là, partout. Il y en a partout au Canada, d'ailleurs.
Ben oui.
On a des projets de tramway, on les appelle train léger, mais c'est la même chose. Les maires là-bas, les élus, les commerçants nous le disaient, ça a été extrêmement pénible. Puis la clé dans tout ça, c'est vraiment la communication. Alors, le maire, lui, il doit chapeauter tout ça. Il doit avoir les deux mains dedans, là. T'sais. C'est pas vrai qu'il peut s'en remettre à un tel ou un tel ou à l'administration ou à M. Desrivières. C'est lui, le boss, là.
De ce que tu perçois, il est justement trop à l'écart, trop spectateur, puis il fait trop confiance à ses équipes?
Bien, moi, je trouve qu'il devrait être plus sur le terrain.
Oui, hein, moi aussi.
C'est ce que j'écrivais. Je pense qu'il devrait y aller à la rencontre. Tu sais, je donne un exemple, là. J'ai assisté. Bon, c'est pas le même genre de projet. C'est pas la même envergure ni la même importance, mais quand même, le chantier du centre Vidéotron, là, il y a plusieurs années. Monsieur Labaume était le maire à cette époque-là, puis il allait sur le chantier, il allait parler avec les travailleurs, avec les citoyens, avec les commerçants. Puis je pense vraiment que c'est ça qu'il faut faire, c'est à ça que les gens de Québec s'attendent. Puis je l'ai souvent critiqué, Monsieur Marchand, parce que je trouvais qu'il connectait pas bien avec les citoyens, avec les intervenants. Puis là, c'est ça qui ressort, c'est cette difficulté-là de connexion sur le terrain, alors que c'est ça qu'il doit faire. On le voit pas beaucoup, là.
Comment ça s'explique, selon toi? Parce que ça fait des années que tu couvres le municipal. Karine, on te voit, on te côtoie. T'es dans chronique, t'en as vécu des aires municipales. Comment on explique celle-là?
Bien, c'est difficile d'expliquer pourquoi il n'est pas davantage proactif. Il est proactif dans la communication avec les conférences de presse, les médias. Il fait des petites capsules sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça, là, communiquer avec les citoyens. Des capsules sur les réseaux sociaux, là...
J'en ai encore vu une. Hey, on le sait, mais on est une ville qui s'adapte. Puis vous allez voir, on va s'adapter. Mais moi, au-delà d'une ville qui s'adapte, je veux une ville qui planifie.
Oui.
Puis la planification n'est pas là à l'heure actuelle. En tout cas, je n'ai pas la démonstration qu'elle est là.
Bien, c'est ça. Lui, il doit, tu sais, sa job, c'est aussi de s'asseoir avec les équipes puis d'avoir des comptes rendus réguliers sur comment on communique. Fait que, tu sais, ce que je comprends, c'est qu'il n'est peut-être pas tant que ça impliqué ou en tout cas...
Mm-hmm. Son projet d'élection, pourtant, depuis le premier mandat, là?
Ah oui, puis il disait qu'il était le capitaine tramway, puis tu sais, ça doit être le cas, parce que si le maire de Québec ne soutient pas le plus important projet de transport et même de tout confondu de l'histoire de Québec, ben on a un problème. Puis là, ben il se trouve que c'est un aménagement de réseau structurant, donc qui modifie le territoire. On le dit structurant parce qu'il amène du développement le long du trajet. Donc, on est en pleine ville, on est au cœur des activités, on est au cœur de lieu de résidence de bien des gens. Ben oui. Ça fait que c'est sûr que l'impact est majeur. Puis une fois que ça va être fait, je pense que tout le monde va être heureux. Mmh. Mais encore faut-il se rendre là le plus pacifiquement possible, ben, avec le moins d'inconvénients possible. Donc, tout est dans la planification.
Puis on sait à quel point, au niveau de l'acceptabilité sociale, ce projet-là est difficile.
Ben,
donc,
difficile.
De mal communiquer, de mal planifier, ben ça vient juste ajouter de l'huile dans le feu, si je veux le dire de même.
Oui, absolument. À cette espèce d'ambiance-là, bon...
Plus morose, qui a
été
là.
Ben oui, qui a été causé par un projet qui a bien trop traîné. Tu sais, je veux dire, on n'en voit même pas encore les impacts positifs, évidemment, parce qu'il n'est pas en fonction. Ça va aller jusqu'en 2033. Fait que là, ça fait combien d'années là, qu'on en a juste
chialer? Ça va prendre 18 ans. En 2015, je travaillais au RTC. Je présentais le projet aux chauffeurs d'autobus.
C'est fou, hein?
18 ans pour faire... Je le dis de même, puis je veux pas venir réduire le projet, mais 18 ans pour faire un petit train sur 19 kilomètres à un moment donné.
Ah non, mais ça n'a aucun sens.
Un an du kilomètre.
Il faut dire que le gouvernement du Québec a été très...
Ça, c'est clair.
A été épouvantable. Puis, tu sais, il y a eu les libéraux qui l'ont largué. Bon, on ne refera pas tout l'historique, mais ça a été extrêmement compliqué. Et donc, ça fait en sorte qu'il y a... Il y a beaucoup de choses négatives qui se sont dites et que là, si ça va mal, si on fait des faux pas comme celui-là, qu'on fait un faux départ alors que le maire dit que tout s'est bien passé, puis en tout cas, je trouvais ça particulier, là, son analyse. Mais donc, ça ajoute à ces critiques-là, évidemment.
Ça peut-tu avoir traîné parce que là, on entend enveloppe budgétaire du fédéral, ça, c'est pas donné, là, le provincial, là, le municipal, là, finalement, on n'a pas tous les sous, là, ça bloque. Ça peut-tu avoir traîné pour ça, puis ça explique un peu la raison. Est-ce que l'enveloppe aurait dû être ficelée, fermée, il y a quelques années? Fait que, oui, on peut en vouloir, mettons, aux citoyens qui disaient oui, non, que ça se déchirait un peu là-dedans, mais il y avait quand même un gros travail de financement qui n'avait pas été... clair, net et précis, il y a une couple d'années.
Ben, en fait, il y a eu une entente dès 2018 entre les gouvernements. Le fédéral, lui, il fonctionne avec les enveloppes du provincial qui émet les priorités. Il y a une entente avec le fédéral. Maintenant, ils doivent augmenter les sommes parce que le projet, le montant, les coûts du projet ont explosé à cause du temps qui a passé parce que le gouvernement caquiste demandait sans cesse de nouvelles modifications pour
on
en revenir.
On va aller à Beauport pour revenir à Charlebourg.
Oui, puis le plus ridicule, c'est qu'on en est revenu essentiellement au projet initial de Régis Labeaume.
Exactement.
Là, hein, je veux quand même le souligner.
Un grand recul en arrière de 8 ans pour rien.
Oui, puis tu sais, ce qui m'inquiète pas là-dedans, c'est que bon, le gouvernement libéral au fédéral a toujours été d'accord avec le projet. Ils poussent des projets de transport en commun. Ils disent qu'ils sont là. C'est juste que là, il y a des discussions entre les deux ministres des Finances pour régler tout ça. Puis moi, j'ai écrit qu'il fallait que le fédéral, là, finalement, finisse par s'entendre puis mettre les sommes sur la table. Maintenant, il n'y a pas d'indice comme quoi il bloquerait le projet. Là. Pas
non,
du tout,
exactement.
Là. Pas du tout.
Il faudrait juste qu'il le fasse rapidement pour arrêter justement les fameuses tractations qu'il y a. Pour rappel, on était avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique pour le Journal de Québec. On parle du projet de tramway, de la mauvaise communication de la Ville de Québec. Maintenant, on va parler du chef de l'opposition, Stéphane Lachance. Je te fais entendre, c'est notre journaliste sur le terrain, Mathias Turcotte, hier, qui l'a questionné par rapport à ces fameuses annulations de rencontres.
Ces deux activités-là qui arrivent coup sur coup en dedans de 40 minutes avec exactement la même excuse... Moi, ça me... Je sais pas, sur le moment, j'ai trouvé ça un petit peu suspicieux. Entre les deux, on a, pour le lendemain, qui était aujourd'hui, pour le CDPQ, on ne se sentait pas vraiment à l'aise de recevoir le vice-président, M. Battani, dans nos bureaux assez exigus. Alors, on a demandé d'avoir une salle de réunion auprès de l'administration. Puis, quelques instants plus tard, l'annulation de la CDPQ est arrivée. Permettez-moi de douter.
Karine, t'es comme moi. Je critique les deux, moi. Je critique Bruno Marchand puis Stéphane Lachance parce que... rigueur, s'il vous plaît, à l'opposition. On a besoin d'une opposition forte, mais d'une opposition qui sera pas juste un anti-tramway. Puis là, quand on me sort des lubies puis des conspirationnistes de réunions cancellées, là, hey, on a-tu d'autres choses à faire, s'il vous plaît?
Mais est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que M. Lachance pense vraiment que le maire Bruno Marchand contrôle l'agenda du PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et du responsable de la CDPQ Infra?
Impossible.
Mais non, voyons. Puis, de toute façon, il y avait des raisons familiales invoquées dans un cas. Puis il y avait un report de date dans le cas de la rencontre avec la CDPQ. Ça fait que c'est de voir des complots là où il n'y en a pas. Je comprends pas ce genre de sortie-là. Puis, c'est ce que j'écrivais en quelques lignes ce matin. C'est qu'il y a tellement autre chose qui pourrait évoquer, qui pourrait soulever.
Ben, oui.
Puis les médias, on ne peut pas faire le travail à la place de l'opposition. On n'est pas à l'intérieur de la machine. Ça fait que oui, on peut critiquer, mais lui, il faut qu'il alimente. Puis donc là, moi, je sens pas qu'en dehors d'une obsession pour s'opposer au projet de tramway ou aux pistes cyclables, mais on dirait qu'il n'y a pas de contenu.
En plein ça, c'est un one-trick pony jusqu'à présent. C'est juste, oui. Je suis un anti-tramway, pas capable de développer sur d'autres liens. Puis ça, c'est signe d'une opposition qui est très faible. Puis malheureusement, avec un Bruno Marchand présentement qui ne fait pas les choses dans le bon ordre pour le projet de tramway, on aurait besoin d'une opposition forte. Et là, on a une opposition faible. C'est ce qui est difficile pour les citoyens de Québec à l'heure actuelle.
Exact. Puis moi, je trouve pas qu'il soulève les bonnes questions. Puis il devrait le surveiller, là, dire « ben où est-il, M. Marchand? » Mais non. C'est... Donc... À un moment donné, là, les grands complots, moi, je trouve qu'ils se couvrent de ridicule. Puis c'est mon travail de le critiquer. Puis si monsieur a la chance, parce qu'il a répliqué dans
ouais, les lettres ouvertes. Ouais, il a répliqué, t'as répliqué.
Bon, ben, moi, j'ai donné une réponse à sa réplique.
Ben oui.
Mais je veux dire, s'il n'y a pas la solidité pour accepter d'être critiqué alors qu'il s'est engagé comme élu puis qu'il est chef de l'opposition, ben, il n'est pas à bonne place.
Là. En effet, on écoute un dernier extrait, justement, de Stéphane Lachance, qui hier parlait d'un supposé ingénieur qui aurait dit à la Ville d'arrêter le projet de tramway.
Je comprends. Mais je comprends. Moi, je vous dis l'information que j'ai reçue, puis je vous la communique. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. Si je nomme la firme ou le nom, cette personne-là, il va perdre son travail. Je ne veux pas être responsable de ça.
C'est pas juste une campagne de salissage.
Non, pas du tout. Absolument pas. C'est pas mon but. Je suis non, totalement. Puis c'est pas mon but, ça. C'est vraiment pas moi, ça, faire du salissage. Je sais pas du tout. Bon, je veux dire, on a une situation. Il y a plusieurs personnes. On en a déjà discuté dans le passé. Même nous, on avait, avant même d'avoir cette discussion-là, on avait dit que. Je l'ai dit, d'ailleurs, quand on a annoncé les travaux, qu'on devrait y aller en étape, puis à ce niveau-là. Cette personne-là a communiqué avec moi, puis m'a donné cette information-là.
T'es des supposés complots de rencontre, des supposés ingénieurs qui m'appellent. Je m'attends à mieux de mon opposition.
Bien là, c'est parce qu'il y en a plein de professionnels, je veux le rappeler, là, qui travaillent sur ce projet-là, là, de CDPQ, du bureau de projet de tramway anciennement, là, qui travaillent ensemble. C'est que là, je veux dire, l'ingénieur sorti de nulle part, dont on ne sait pas le nom, on ne peut pas se fier là-dessus.
Non.
C'est pas sérieux, ça, comme façon de faire. Puis on s'attend à mieux d'un chef de l'opposition de la ville de Québec, qui est la capitale nationale et la deuxième plus grande ville du Québec. Donc, on s'attend à ce qu'il travaille fort, à ce qu'il monte des dossiers de manière sérieuse, étoffée, qui arrive avec des faits, des données. D'abord, il y a tous les moyens. Hein. Il y a énorme budget de recherche.
Il y a 1 million de budget de recherche.
Moi, je veux le rappeler aux contribuables, puis c'est votre argent qui est utilisé là-dedans. Mm-hmm. C'est qu'à un moment donné, il faut sortir des obsessions puis des lubies, puis il faut arriver avec des dossiers sérieux qui vont être présentés aux journalistes puis que les journalistes vont pouvoir utiliser puis traiter parce que ça va être étoffé et ça va être sérieux.
Très d'accord. Québec mérite mieux, mérite un maire plus sur le terrain pour accompagner le projet de tramway et mérite un chef d'opposition qui va creuser mieux ses dossiers. Karine Gagnon, merci, c'est un plaisir de te recevoir.
Merci, plaisir partagé.
Merci beaucoup. Après cette courte pause, dans un instant, on reçoit Rémi Villemur, notre chroniqueur du 99.5 Montréal. On revient sur la polémique entourant Michael Rousseau, mais on va aussi parler de... démographie au Québec. Donc, on avait une hausse. On est passé de 8 à 9 millions de population dans les 10 dernières années. Mais là, ça va stagner. Et pour Rémi, c'est pas du tout une mauvaise affaire. On en parle dans quelques instants à l'émission On en jase à Boulevard 101.
Les dernières années ont été marquées par une augmentation du coût de la vie. Devant cette situation, le gouvernement du Québec a mis à votre disposition plusieurs mesures pour remettre de l'argent dans votre portefeuille. Tel qu'un montant de 300 $ tous les 24 mois pour les lunettes ou les verres de contact des jeunes de moins de 18 ans, ou encore une aide financière accrue aux aînés. Découvrez toutes les mesures mises à votre disposition sur québec.ca/portefeuille-québécois. Un message du gouvernement du Québec.
Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec du palmarès Via Capital. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier Via Capital. SimonLaberge.com.
Dans 70 ans, on ne sait pas si les autos vont voler. Mais on sait que le beignet glacé beurre et érable de Ryan Reynolds va être encore chez Tim. Parce qu'il est tellement bon que les gens vont vouloir le commander pour... Pour combien de temps, Ryan?
Pour ton chauffeur.
dans les teams participants au Canada. Des conditions s'appliquent.
Vous déménagez bientôt? Simplifiez-vous la vie avec Soumission Déménageur. Un seul formulaire vous permet de comparer gratuitement jusqu'à 5 prix de compagnies de déménagement fiables et certifiées. Rapide, simple et partout au Québec. Soumission Déménageur, plus de 150 entreprises à votre service.
Quand la chaleur revient, les puces et les tiques s'activent. Protégez votre chien avec K9 Advantix 2, un traitement topique mensuel qui agit avant que les parasites piquent votre chien. Offert sans prescription dans les magasins Mondou et au mondou.com.
Tu te lèves toujours brûlée. C'est pas normal. T'as aucune patience, puis ça me stresse de t'entendre arrêter de respirer la nuit. J'aimerais ça que t'aies plus d'énergie. Je veux retrouver mon chum d'avant.
Pour dormir comme avant, visitez la clinique du sommeil, lessard.com.
Automobile en direct est maintenant ouvert à Québec. Viens découvrir le plus grand choix de véhicules d'occasion au Québec. Passe nous voir en semaine de 9h à 21h ou le samedi et dimanche de 10h à 17h. Automobile en direct, ton auto, on l'a direct.
L'actualité présentée par Alimentation Première. Des protéines de qualité et un service pensé pour simplifier votre quotidien. Visitez...
On en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
On vient de faire un segment avec un dossier de Pascal CV, conversation très touchante avec Daniel Fortin, un père épleuré. Un jeune garçon qui s'est fait tuer par un chauffeur il y a de cela à peine 5 ans. Et 4 ans après la sentence de 15 ans de prison, le chauffeur a déjà des permis de sortie la fin de semaine. Vous n'avez pas pu l'écouter, c'est sur blvd.fm que vous allez pouvoir aller rechercher le tout immédiatement après l'émission. Même principe pour Karine Gagnon qui est venue nous faire une chronique municipale disant que le maire de Québec et le chef d'opposition, les deux font pas leur job. Puis c'est ce qu'on dit aussi en jase. Donc on peut pas être taxé de favoritisme. On trouve que les deux ont des problématiques à l'heure actuelle. À la météo, la neige vient de cesser. Ça va être un refroidissement. On va avoir moins 9 pour cette nuit. Il y a des possibilités de neige, peut-être de la pluie, vu que là, on est à 1 degré. Donc, ça va être à suivre. Demain, vendredi, dégagement le matin. Ça va être moins 4 au maximum. Et ce week-end, moins 6 degrés, alternant soleil et nuages pour samedi. Et nuageux à 0 degré pour dimanche. Pascal, en manchette, rapidement, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Ça vient de sortir, mais Ottawa va interdire les brownies dans les courses à la chefferie, en fait. C'est,
moi qui aime les petits gâteaux.
C'est au tour du gouvernement fédéral d'interdire le versement d'un don en échange d'un vote. Et ça, c'est dans le contexte d'une course à la chefferie d'un parti politique. On a annoncé ça il y a quelques minutes par le ministre responsable des institutions démocratiques, c'est Stephen McKinnon. Et il va présenter un projet de loi qui vise à assurer cette tenue d'élection libre et robuste en modifiant la loi électorale du Canada. Bon, c'était déjà illégal de donner de l'argent à une personne pour influencer son vote lors d'une élection, mais il n'était toujours pas interdit de le faire dans le cadre d'une course à la chefferie d'un parti. Elle est là, la nuance. Tout est dans la nuance.
Yes.
Ce n'est pas le jour de la marmotte. Je vous rappelle que le tramway de Québec est à la une aujourd'hui, cette fois-ci encore avec la CDPQ Infra. On a annoncé les consortiums privilégiés dans le projet aujourd'hui, donc identité des deux consortiums qui viennent d'atterrir dans les nouvelles. C'est pour la conception, la réalisation des ouvrages et des systèmes du tramway de Québec. Ça sera accordé à Tram Alliance, un consortium composé de Construction Kiewit Company, EBC Incorporé, sous-traitant d'ingénierie Kiewit Construction, soutenu par WSP, Artelia, Sima Plus, Régis et Richer Associés. Vous saignez du nez, je comprends.
Etc.
Mais je vous les ai nommés. Alors ça a été annoncé aujourd'hui. Moisson Québec va obtenir de l'aide pour récupérer les denrées dans les supermarchés. C'est 700 000 $ sur 4 ans qui viennent d'être annoncés également. Donc 84 000 personnes par mois qui frappent aux portes des organismes communautaires qui sont soutenus par Moisson Québec, qui vont voir une aide augmentée. Et en attendant la décision de la juge qui doit se prononcer sur la responsabilité civile de Gilbert Rozon, qui est accusé d'agression sexuelle et de viol par 9 femmes. Eh bien, Rozon a de son côté retiré sa poursuite en diffamation contre Julie Snyder et Penelope McQuaid.
Pour ce qui est de Moisson Québec, Mathias Turcotte va nous en parler à la fin de l'émission et ça me permet d'introduire Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal, chroniqueur à l'émission On en jase deux fois par semaine, c'est-à-dire les mardis et jeudis. Et je vais saisir la balle au bon avec Mathias Turcotte pour parler à Rémi d'un dossier qu'il nous avait parlé, c'est-à-dire cette conférence décriée par les féministes à l'Université Laval avec Étienne-Alexandre Beauregard. Avec Alexandre Boissonneau, député du PQ, et avec également Benoît Tremblay. Sache que Mathias Turcotte est sur place à l'heure actuelle, Rémi, et il m'a texté ceci. Je vais être obligé de te parler par téléphone parce qu'il y a des féministes qui n'arrêtent pas d'intervenir durant la conférence. Et Mathias va nous envoyer des extraits aussi de ces féministes enragés contre les hommes qui organisent une conférence sur la démographie au Québec.
OK, fait que donc en ce moment, c'est en train d'être perturbé?
C'est là, c'est perturbé en ce moment, Rémi. Solidarité!
Ben, je pensais que l'Université Laval avait... Parce que moi, j'avais vu une publication de Benjamin Tremblay sur Facebook qui saluait l'ingéniosité de l'Université Laval, le sérieux qu'ils avaient déployé à l'université dans le fait de s'assurer que ça se déroule bien. Donc, on a raté notre coup, quoi qu'on pouvait certainement pas commencer à trier le monde à l'entrée en disant « Toi, t'as l'air d'être venu pour faire du trouble parce que t'es habillé de cette façon-là ou t'as les cheveux de cette couleur-là. » Je comprends qu'on n'a pas pu faire ça. Mais c'est très dommage parce que c'est qui va bien paraître dans cette histoire-là? Soyons honnêtes. Ben, c'est pas eux, en tout cas.
Ben non, c'est pas eux.
Dommage si on veut avoir un effet et qu'on est dans cette organisation-là et qu'on veut passer un message puis sortir gagnant sur le plan rhétorique et du marketing. Donc, ils vont avoir l'air de ce qu'ils sont, des perturbateurs, des gens pas capables d'entendre des gens qui pensent pas comme eux, des gens qui voient dans le fait de penser autrement un danger qu'on ouvrait à notre propre personne. C'est complètement ridicule.
Oui, je le rappelle, sur blvd.fm, mardi, je me suis entretenu avec Étienne-Alexandre Beauregard. On avait des points de vue différents sur comment financer les organismes communautaires. Étienne-Alexandre travaille pour un organisme communautaire qui est financé à 100% par le privé. J'ai été directeur du financement d'un organisme communautaire dans la famille des patrons durant 5 ans. Et même si on est en désaccord sur plusieurs points, on a eu une belle conversation courtoise, sensée et étoffée avec nos arguments de chaque côté de 12 minutes. On est encore capable de faire ça dans notre société, Rémi. C'est beau, hein?
Tu veux dire, Jeff, que tu es sorti de là et tu n'avais pas de blessure? Je veux dire, est-ce que tu étais, mentalement et physiquement, t'étais-tu correct?
Oui, on s'est serré la main à la fin. Je suis allé reconduire Étienne-Alexandre vers la porte. Il s'est tourné et il m'a dit, « Tu sais, Jeff, comment j'aime venir dans ton émission. » Tu me réinvites quand tu veux. » Et je lui ai dit, « Tu m'envoies des sujets quand tu veux. » Et tu vois, on pense pas pareil. Mais on aime ça, discuter ensemble.
Mais ça, il n'y a pas eu quelqu'un qui était conscient. Hein? C'est ce que Jeff dit, là. Mais peut-être que c'est un autre scénario qui s'est passé. Là. C'était pas en ondes.
Non, oui, c'était en ondes. C'était
là. Boulevard.fm.
Pascal était là. Elle n'a pas eu besoin de s'interposer telle une arbitre d'hockey entre deux gars qui veulent se battre avec une foule endiablée. Non, on a discuté de nos arguments différents. Et sur certains points, on en est venu à des consensus. Ça existe encore, ça, Rémi. En venir à des consensus, des voies de passage.
Je comprends pas. Je comprends pas. J'apprends toutes ces choses-là en même temps que vous aujourd'hui.
Puis tout fait ça à la radio poubelle de Québec, t'imagines?
Ah, ben là c'est la cerise sur le Sunday.
C'est malade comment qu'on peut changer le monde. OK, on a essayé de divaguer et c'est fait de sarcasme sur ces féministes enragés. Mais tiens, je vais te lancer sur le fait que, au niveau de la démographie, belle chronique de Jean-François Lisée aujourd'hui dans Le Devoir que tu voulais nous parler.
Oui, ben en fait, on se pose souvent la question à savoir être rendu 10, 11, 12 millions de personnes. On se demande, est-ce que ça va être pareil, est-ce que ça va pas être pareil? Ce que Jean-François Lisée a fait dans sa dernière chronique, c'est nous rappeler que, parce que c'est ce que les statistiques démontrent, là, à moins qu'il y ait un revirement de situation, puis je vois pas comment ça pourrait se produire, on ne se mettra pas à faire des enfants demain matin, peut-être dans 5-6 ans, mais pas demain matin, certain. Et on a pris des mesures en matière d'immigration. Donc, le scénario le plus plausible voudrait que la population stagne. Et puisqu'on se pose jamais la question de savoir qu'est-ce qui va se passer, alors... On dit des fois qu'il va manquer de main-d'œuvre. C'est tout ce qu'on dit.
Ouais.
Si ça se tente, parce qu'il y a plus de travailleurs qui vont se ramasser.
Mais peut-être qu'on n'aura plus de roulotte accrochée à nos écoles. Peut-être qu'on n'aura plus une liste d'attente de 30 000 personnes en CPE. Peut-être qu'on va avoir moins d'attente dans nos urgences. Peut-être que finalement, la province de Québec est comme une entreprise. Puis quand on veut développer une entreprise trop vite, qu'est-ce qui arrive? La faillite.
Ben exactement. Donc, lui, ce qu'il nous rappelle, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes affaires qui vont se produire si on décide de stagner au niveau de la population. Je pense que le truc qu'il faut mentionner d'abord, parce que je pense que c'est ce qui frappe l'imaginaire, c'est la question de l'étalement urbain. Tu sais, les gens s'installent dans les villes. Ça aussi, ça ne changera pas, là, OK? Les gens, ils quittent les régions. Souvent, tu pars, par exemple, du Saguenay pour aller étudier à l'Université Laval parce que tu veux faire... Tu vas étudier dans une ville. Il y a des gens, après, qui viennent à Montréal. Montréal, c'est l'endroit où les gens s'installent et dans la couronne. Donc, plus il y a de monde, moins il y a d'espace. Et ça, je vous invite à demander à des gens dans votre entourage, est-ce que vous êtes capable de me trouver une seule personne qui veut vivre davantage à l'étroit? Moi, j'en connais pas.
Non.
Moi, j'en connais pas, là. Moi, les gens que je connais, je leur dis des fois, est-ce que t'aimes l'environnement que t'as? Est-ce que t'aimes ça avoir de l'espace? Est-ce que t'aimes ça, des fois, arriver quelque part au bout d'une rue, puis il y a personne? Il y a juste toi, la ville t'appartient. Ça plaît à tout le monde, ça. Bien, dans un monde où on deviendrait une province de 12, 13, 14, 15 millions de personnes, hein, parce que c'est ce que voulait, en passant, Justin Trudeau, là. Il voulait un pays de 100 millions d'habitants. Fait que c'était pas 9 millions au Québec, puis 91 millions partout, là. Bien, dans un monde comme ça, on fait le deuil de l'espace, on fait le deuil des reliefs, des horizons. Et ça, je trouve que Jean-François Lisée met le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est pas fou que de s'attacher à ça. Il parle aussi du fait qu'on dit souvent qu'on manque d'entretien dans nos écoles, dans nos hôpitaux. Bien, dans un monde où il y a de plus en plus de personnes, tu négliges l'entretien. Parce qu'au lieu d'entretenir, tu construis.
Exactement.
Tu construis un nouvel hôpital. Tu construis des nouvelles écoles.
Puis, on est en déficit de 40 milliards sur l'entretien de nos infrastructures, gardons ça.
Ben,
un heureux hasard. Hein? Hey Rémi, j'interromps ceci deux secondes parce qu'on a Mathias au bout de la ligne, qui est justement à cette fameuse conférence concernant cette fameuse conférence de Benjamin Tremblay, Étienne-Alexandre Beauregard et Alex Boissonneau. Mathias Turcotte, comment ça va?
Ça va très bien.
Explique-nous, qu'est-ce qui arrive avec nos féministes?
Ouais, ben écoute, ça brasse pendant un bout, parce qu'on avait manifestation qu'on allait témoigner notre désaccord envers cette conférence-là, je vous rappelle, qui a tenté d'être annulée en début de semaine. Puis là, c'était censé commencer à 11h30, soit une heure avant la conférence. Finalement, c'est au début de la conférence, après 5 minutes, qu'on a eu une première personne qui s'est levée debout pour commencer à crier des idées que eux mettaient de l'avant pour dénoncer justement cette conférence-là, mais en interrompant complètement la conférence. Donc, des personnes qui se sont mises à crier. Puis par la suite, aux 5-6 minutes, on avait une personne à nouveau de ces groupes-là qui veulent tenter de mettre fin à la conférence, qui venait interrompre la conférence à nouveau. Puis c'est un peu ça qu'on vit depuis le début. Ça s'est calmé dans les 15 dernières minutes, là. Mais au début, plusieurs personnes, puis à chaque fois, bien sûr, grosse présence de sécurité ou encore de policiers sur place qui venaient les sortir de la salle. Mais ça a quand même brassé là, en début de conférence, j'ai envie de vous dire.
De la belle ouverture d'esprit, Rémi Villemur, de cette gauche extrémiste. C'est tout qu'un spectacle désolant.
Oui, puis il y a quelques semaines, je pense qu'on devait parler de... Parce que c'était annoncé, là, ce qui s'en venait. Moi, si j'avais... Il a fallu que je mette de l'argent. Je pense que j'aurais mis de l'argent sur un événement perturbé de la sorte. On avait dit il y a quelques semaines, puis je l'ai entendu de la bouche de beaucoup de personnes, ce n'est plus à la mode, ce n'est plus tendance de faire ça. La population n'est plus là.
Non.
La population n'avait plus rien savoir de ça. Regardez, je fais un lien un peu étrange, mais c'est un peu le même principe, l'affaire Julien Lacroix, la réaction populaire des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce que les gens sont en faveur du traitement qui a été réservé à Julien Lacroix? Non. Les gens sont derrière ça, les gens sont tristes, les gens croient à la possibilité que des gens puissent s'exprimer, que des gens puissent continuer d'avancer. Les trois personnes qui ont été convoquées là, à cette conférence-là, qui ont été invitées à discuter, ce sont des personnes normales, qui ont des opinions normales. Je préciserais même que leurs opinions rejoignent une majorité de personnes au Québec, ce que ces certaines féministes-là ne peuvent pas dire et affirmer et revendiquer. Je m'excuse, mais leur méthode, premièrement, ne correspondent pas aux mœurs au Québec, mais leur discours non plus, un discours radical. Les Québécois ne sont pas là. Les Québécois aiment les positions pragmatiques.
En effet. Mathias, as-tu réussi à enregistrer quelques réactions de ces féministes?
Oui, bien, j'ai des enregistrements, en fait. Jeff, je ne sais pas si tu les as sur le courriel, je t'ai envoyé.
Ah, oui.
Ces deux extraits, en gros, on peut écouter celui de l'homme. C'est lorsque, justement, des nombreuses personnes qui sont intervenues a pris la parole pour interrompre l'événement. La foule a réagi,
Attends une minute. Vas-y, continue, Mathias, puis je vais le mettre après.
C'est ça. Vous pouvez l'entendre. La foule a réagi fort lorsque la personne a interrompu l'événement et s'est fait sortir par la suite.
On écoute le tout.
Vous le savez très bien. Tout ça, les gars, prenne votre argent public en blâmant les immigrants.
Une discussion, Rémi, qui est censée être civilisée, vire au cirque là, en raison d'un groupe d'extrême de gauche.
Ouais, mais je regrette, mais j'entendais pas, moi, par exemple.
Je m'excuse, je vais te mettre ça par la suite. Dans le fond...
C'est des gens qui crient, là.
Exactement. Tu as entendu des gens qui crient.
Alors ça, on note quand même, j'ai pas entendu, là, mais si vous me dites qu'ils crient, vous me dites donc qu'ils ne parlent pas. Donc, ils crient et choisissent de ne pas parler. Donc, tout est aussi dans le ton et dans le débit. Hein. Quand vous criez quelque chose, c'est parce que lorsque vous parlez, on ne vous entend pas. La raison pour laquelle on ne vous entend pas, c'est qu'on ne veut pas vous entendre aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crie. Puis qu'est-ce qui arrive quand on crie? On a encore moins le goût de vous entendre.
Exactement. Et le dernier extrait, Mathias, c'est nommé femme qui se fait mettre dehors, c'est une femme qui se fait expulser, dans le fond?
Oui, bien exactement, c'est la même situation. Là, comme vous avez entendu, c'est quelqu'un qui se lève, qui prend la parole en criant, et par la suite, elle se fait mettre dehors et la foule réagit, évidemment.
Parfait, on l'écoute. Près de vrai cirque où ça eut, on devrait avoir une discussion civilisée et ce n'est pas du tout le cas.
Puis je veux juste rappeler, là, à la fin de la conférence, il y a une période de questions qui est prévue pour ces personnes-là, si jamais ils veulent questionner les invités, jamais ils veulent faire entendre leurs propos. Puis Julie Vignola, qui est une ancienne députée fédérale, c'est elle qui anime la discussion en ce moment, elle l'a rappelé à plusieurs reprises, chaque fois que quelqu'un se levait, elle le rappelait. Si vous voulez intervenir, si vous voulez commenter, si vous voulez poser des questions, il y a une période qui est dédiée à ça, mais à la toute fin.
Rémi, il y a un droit de parole qui leur est donné et elle décide de mettre le chaos.
Ben oui, c'est ça. Donc, c'est pas suffisant. Donc, En fait, on veut pas participer au débat. On veut perturber. On veut pas qu'il y en ait un.
On veut bannir.
Et c'est ça. Puis c'est là que je nous invite à relire leurs revendications parce qu'ils disaient il manque de diversité sur ce plateau-là. Il manque. C'est trois personnes qui pensent pareil. D'accord. Donc, si vous voulez. Vous invitez, venez poser des questions ou organisez votre propre événement pour qu'il y ait un événement. Moi, j'aurais trouvé ça intelligent comme formule. Faites un autre panel dans un autre local de l'Université Laval en même temps. Faites ça. Comme ça, c'est une façon de protester de façon, je dirais, respectueuse à la tenue d'un événement.
J'aime ça.
Ça s'est déjà fait un peu partout dans les universités au Québec. C'est une façon intelligente de faire ça. Puis ensuite, vous prenez des photos puis vous mesurez le nombre de personnes qui sont venues. Oui. Ah, il y a 50 personnes qui sont venues. De l'autre bord, il y en a eu 25. Ah, bon.
Là, même Donald Trump l'a fait avec Kid Rock pour le show de la mi-temps au Super Bowl.
Oui, Kid Rock. C'est pas Donald Trump qui a inventé ça.
Rémi Villemur, toujours un bonheur de te parler. On a eu des réactions à froid de ce qui se passe à l'Université Laval. Merci infiniment pour ta présence les mardis et jeudis dans notre émission et on se reparle mardi prochain.
Bye-bye tout le monde.
Salut. Rémi, vous pouvez entendre sur les ondes du 99.5 du lundi au jeudi de 18h à 19h et le samedi matin de 8h à 10h. Mathias, on se reparle dans quelques minutes pour Moisson Québec.
Oui, parfait.
Excellent. Salut, Mathias. Merci beaucoup d'être toujours sur le beat pour nous. Ouais, Pascal, en tant que femme, t'en penses quoi de ces femmes-là qui interviennent comme ça tout rond?
Ben, tu sais, j'avais pas les deux pieds, là. J'avais pas les deux pieds dans la salle. Je pense pas que c'est la meilleure façon de se faire entendre. Si elles croient que oui, puis qu'elles vont jusque-là, ben, clairement, peut-être qu'elles ont été muselées à un moment ou à un autre. Mais tu sais, dans les cas de position extrême, puis de parler par-dessus des gens, puis de pas avoir des phases de débat, puis de pas être en... Tu sais, il aurait pu se passer quelque chose du genre, OK, il y a contestation. Si vous êtes prêtes, les filles, on va vous... J'ai le terme anglophone, mais mélanger avec les gars qui vont faire une prise de parole. Puis on va avoir un segment peut-être à la fin où, regarde, on peut-tu s'entendre sur quelque chose au début ou ensemble tout le long, puis on va avoir une conversation globale. Pour moi, il y a toujours des solutions dans la vie. Puis les agents perturbateurs qui ne trouvent pas de solution sont le problème.
En effet.
Habituellement, c'est comme ça. Quand tu n'es pas capable de parler business dans une entreprise sans que ça part en couille, ça parte en couille, il y a un problème, agent perturbateur. Quand tu n'es pas capable de parler dans ton couple d'une situation, il y a un problème, agent perturbateur. Et quand tu n'es pas capable en société d'avoir un débat, d'être capable de t'asseoir, ça veut dire que ton problème, c'est pas celui que tu insinues, c'est pas celui que tu amènes sur la table. Ton problème va au-delà de ce que tu amènes sur la table et c'est vraiment une question d'être. Puis dans ce cas-ci, ça semble être une question et un problème d'être. Il voulait crier, il voulait faire une prestation.
Ouais, exactement.
Il voulait faire.
Il voulait donner un mauvais spectacle.
Puis je me trompe peut-être, j'avais pas les deux pieds, mm-hmm. mais ma perception, c'est celle-ci.
En effet. Après la pause, gros jugement hier en Californie pour ce qui est de YouTube et Instagram. On devra verser 3 millions de dollars à une adolescente qui est devenue addict des médias sociaux. On en parle avec une professeure, Maude Bonenfant, professeure du département de communication sociale et publique à l'UQAM. Donc, elle sera avec nous dans quelques instants à Boulevard 101, l'émission d'En Jase.
Jusqu'à 14 heures. Laborateur te raconte l'actualité.
Boulevard 102.1.
Émission d'En Jase, il est 13h40. C'est sur Boulevard 101. Pour nous rejoindre, 418-971-1021, une auditrice qui nous écrit en quoi c'est constructif ce genre d'agissement que l'humain m'énerve en parlant justement de ce groupe féministe à l'Université Laval. En effet, il n'y a rien de constructif là-dedans. Je vous le dis, soyons ouverts au dialogue. C'est la meilleure façon de procéder.
Mais
écoutez,
c'est tellement plate,
des
c'est tellement
opinions
plate.
Différentes.
Jeff, faire ça, c'est plate parce que
je
tu
sais.
Vas être obligé, pendant que tu me parles, d'écouter ce que tu dis
ben
pour
oui.
vrai et non préparer ma réponse puis juste préparer ce que j'ai goût de dire, moi, pendant que tu parles. Si je fais un débat avec toi, il va falloir que je t'écoute.
Hey, ça, c'est plate. Oh, dis que c'est plate, l'écoute attentive. Ça n'a pas de sens, mais tu as tellement raison. BLVD.fm, c'est notre web radio pour écouter nos meilleurs moments également. BLVD 101, c'est notre application. Disponible sur App Store, Google Play Store, twitch.tv/BLVD/FM. Abonnez-vous à notre page YouTube et par haut-parleur intelligent, vous n'avez qu'à dire écoutez BLVD 102.1 et on apparaît. Pascal, je suis certain que tu as vu la nouvelle hier. Ben, je suis certain parce que tu l'as dit en fin d'émission, ce jugement.
Ben oui!
Ça vient de me popper en tête.
Oui.
Ce jugement de 3 millions de dollars que YouTube et Instagram devront payer à une adolescente qui est devenue addict des médias sociaux. Ça pourrait faire des petits partout dans le monde, dont ici au Québec. Et justement, pour en parler avec nous, on a l'enseignante, la professeure de l'UQAM en communication, Mme Maude Bonenfant. Mme Bonenfant, merci de participer à l'émission d'En Jase.
Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Mme Bonenfant, est-ce que vous êtes surpris de voir ce jugement-là tomber en Californie hier?
Non, je ne suis pas surprise, mais je suis très heureuse parce que, disons qu'on l'attendait. On attendait qu'il y ait une forme de responsabilisation des plateformes, des GAFAM, comme on les appelle, là, pour qu'enfin on reconnaisse là, le tort qu'elles peuvent causer, entre autres chez les jeunes.
Ça fait partie un peu des discussions que tout le monde a dans divers paliers politiques depuis un bout en se disant, on va-tu voir les répercussions? Puis les chercheurs le disent, seulement dans 10 ans, dans 15 ans. Finalement, on commence à les voir maintenant. Ça semble être beaucoup plus aride comme contexte que ce qu'on croyait, les impacts négatifs des réseaux sociaux, non?
Oui, c'est beaucoup plus grave qu'on le croyait. Puis en fait, ça fait plusieurs années là, qu'on voit là, une montée là, des effets négatifs. Puis en fait, on comprend ces effets-là dès qu'on explique le modèle économique. Donc, le modèle de ces plateformes-là, c'est basé sur l'attention. Donc, plus on est connecté longtemps, plus on revient souvent, plus on regarde la publicité et donc plus on est rentable. Donc, toute la plateforme est faite pour nous garder connectés vraiment le plus longtemps possible, sans tenir compte, par exemple, du développement du cerveau chez l'enfant, chez l'ado et tout. Donc, on va exploiter quand même les biais cognitifs dans ces plateformes-là, puis on va avoir vraiment ce qu'on appelle un design persuasif. Donc, c'est une façon de construire la plateforme qui va faire en sorte que ça va être difficile là, de se déconnecter. Puis à ça, bien, on ajoute des algorithmes qui sont de plus en plus personnalisés, de plus en plus puissants pour prédire là, le prochain contenu qu'on voudrait voir, entre guillemets. Là. Et donc, ça fait finalement des environnements là, qui replient la personne sur elle-même. Puis quand on parle d'adolescents qui sont en pleine construction identitaire, bien là, ça peut effectivement vraiment avoir vraiment des effets négatifs sur, entre autres, la santé mentale.
Sans surprise, les plateformes vont amener le jugement en cour d'appel. Les plateformes ne prennent pas du tout leurs responsabilités à l'heure actuelle, que ce soit par le phénomène qu'on décrit là d'addiction aux médias sociaux, mais aussi, je pense aux publicités frauduleuses, je pense aux informations frauduleuses également, inventées, les fameuses fake news qui se retrouvent sur les plateformes. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on va réussir justement à combattre les plateformes pour faire en sorte que tout ça disparaisse?
Bien, si on peut avoir un aspect positif de ce jugement-là, c'est que là, pour une fois, elles n'étaient pas amenées en justice pour le contenu des médias sociaux, parce que ça, les entreprises sont protégées aux États-Unis, il y a une loi qui les protège, donc elles ne sont pas responsables du contenu affiché. Donc, on pouvait pas aller leur dire, ben vous avez du contenu, par exemple, qui va mener vers de l'anorexie ou du radicalisme ou ce genre de contenu-là qui peut avoir des effets négatifs chez les jeunes. Là, c'est vraiment sur la plateforme elle-même. Donc, c'est leur structure qui est mise en cause. Et donc, c'est inédit là, qu'on les rend responsables de la manière dont les plateformes sont conçues. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, elles vont devoir faire acte des jugements qui vont être menés. Oui, bien sûr qu'elles vont faire appel parce que tout le modèle économique est basé là-dessus. Donc, c'est sûr que si elles changent la structure de la plateforme, si elles changent les algorithmes, les revenus vont être moins grands. Donc, ça, c'est sûr. Donc, parce que les gens vont être moins collés, compulsifs, addicts à la plateforme, donc ils vont avoir moins de revenus. Mais là, on voit qu'il y a quand même un changement. Il y a un changement dans la société, dans les discours sociaux. Il y a de plus en plus d'intervenants à différents niveaux qui veulent des changements, à commencer par les jeunes eux-mêmes, qui le sentent bien, qui se sentent addicts eux-mêmes aux plateformes, mais c'est plus fort qu'eux. Je le comprends, parce que tout le dispositif est fait pour qu'ils restent scotchés le plus longtemps possible.
Est-ce qu'on peut comparer justement le combat qui est livré à l'heure actuelle avec les plateformes de médias sociaux à ce qui a été livré avec les compagnies de tabac à l'époque de la dépendance à la nicotine?
Oui, mais on entend de plus en plus ce parallèle-là, puis je pense que on peut le faire dans le sens où l'on est en train de démontrer que ces entreprises-là connaissaient les effets au potentiel addictif, connaissaient les effets négatifs sur la santé mentale des jeunes, particulièrement des jeunes filles. Donc, c'était des informations qui circulaient au sein des entreprises, comme exactement les cigarettiers savaient les effets négatifs de la cigarette et le cachaient à la clientèle. Et donc, c'est reproché là, dans le jugement, c'est de ne pas avoir assez mis de l'avant les risques potentiels de l'usage des médias sociaux, de ne pas avoir assez mis de barrières à l'usage des médias sociaux pour les moins de 13 ans, chez les moins de 13 ans, entre autres sur Instagram. Et donc, un ensemble de mesures comme ça qui dit « Entreprise, vous le saviez, vous avez quand même continué dans cette direction-là au détriment de la santé des jeunes et donc vous en êtes responsable. » C'est un jugement similaire qui avait été fait là avec les cigarettiers. Là.
C'est fascinant, par contre, parce que les cigarettiers voulaient aussi faire de l'argent, assurément. C'est une compagnie qui voulait faire des profits. Les réseaux sociaux, c'est moins tangible de le comprendre de cette manière-là. Ils sont ultra protégés aussi. Est-ce qu'on va être capable de sévir? Est-ce qu'on va être capable de les atteindre financièrement pour de vrai?
Oui, je pense, parce que c'est pas juste au Québec, c'est pas juste en Californie, là, c'est mondialement. Là, on est en panique, j'oserais dire, là, où on se rend compte des effets vraiment négatifs. Là, on parle beaucoup des jeunes, puis il le faut, là, nous, comme adultes, je trouve qu'on fait pas notre travail, là, de venir protéger les jeunes. On leur met dans les mains ces dispositifs-là, puis après, on les chicane parce qu'ils sont tout le temps collés sur leur cellulaire, mais l'appareil, le dispositif est fait pour ça, et c'est comme ça sur toute la planète. Et donc, là, on réagit, de manière des fois très, très abrupte, comme par exemple en Australie, ils ont tout simplement interdit les médias sociaux pour les moins de 16 ans. Et donc, il y a vraiment un mouvement mondial. Donc, les plateformes, à un moment donné, elles ne pourront plus passer à côté des récriminations qui sont faites. Et donc, elles devront prendre acte et commencer à mettre des mesures en place pour transformer, pour changer le design de leur plateforme. Mais ça, avec la pression populaire, la pression des gouvernements, gouvernement en passant des lois et la pression des cours de justice pour faire appliquer les lois. Donc, c'est à tous ces niveaux-là, là, faut qu'il y ait une pression. Mais oui, on peut y arriver parce que, de toute façon, on n'a pas le choix, entre guillemets. On va pas rester assis puis regarder nos jeunes comme ça souffrir autant jusqu'au suicide. Il faut agir. Il faut que ça change. Et donc, oui, on peut agir sur ces entreprises-là.
Maude Bonenfant, professeur département de communication sociale et publique à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui et on se reparle prochainement.
Au plaisir.
Merci, au revoir. C'était Maude Bonenfant. On parlait de ce jugement qui va faire des petits en Californie 3 millions de dollars que YouTube et Instagram devront verser à une adolescente qui est devenue addict justement de leur plateforme jusqu'à en vivre une large dépression.
Je me demande, moi, Jeff, si on va être capable de les garder aussi vivants parce qu'il ne faudrait pas que tout ferme. Les réseaux sociaux apportent aussi beaucoup de belles choses. Imagine ce montant-là multiplié dans une action collective ou avec tellement de jeunes.
C'est
là,
ce que je me disais
capable de payer
hier,
la facture. Là.
C'est des milliards
Pensez,
de dollars.
Pensez, c'est mondial, on l'a dit. Ouh là là.
Ouais. Dans un instant, Boulevard 101, il reste peu de temps à l'émission dans Jase. Je vais vous parler du Canadien contre les Blue Jackets de Columbus ce soir.
On en jase à Boulevard 101.
Émission en jase qui tire à sa fin. Pascal, qui dit on nomme des consortiums pour le tramway, dit maire qui va se péter les bretelles.
Ben oui, on dit maire qui commente. Et je vais le citer.
Vas-y.
Une autre grosse étape franchie. Avec ces deux contrats, le projet est plus concret que jamais. Tous les partenaires sont maintenant connus et les chantiers se mettent en place selon les étapes planifiées, tant au niveau de l'échéancier que des paramètres budgétaires. C'est une fantastique nouvelle pour l'économie de la ville et de la région.
Wouhou! Canadien Blue Jacket ce soir. Pascal, Yannick Marceau va y être.
Mais en là, personne?
Oui, mais là, il y a quelqu'un qui n'a pas de bonne mort. Martin, Martin Saint-Louis, on écoute ça.
Des changements ce soir, Martin. Non, c'est... Donc,
Where's Eric Engels?
He didn't bother coming because we have to give up the...
You can remind everybody. Next question.
Il est fâché. On lui pose pas les bonnes questions. On lui demande qui va jouer à soir, puis il veut pas répondre.
Monsieur Saint-Louis, c'est la job des journalistes de pas poser les questions que vous voulez.
Mais c'est ça, c'est à soir, le match, Martin. C'est qui goal? C'est qui est habillé? C'est toutes des questions qu'on veut savoir. Il le sait, il veut juste pas le dire.
Pourquoi? Explique-moi ça, je sais pas.
Parce que c'est un match important ce soir, Canadien Blue Jackets. Canadien, 88 points au classement, Blue Jackets, 87. Fait qu'il veut garder une petite surprise pour ses adversaires.
Ah.
C'est une stratégie sportive.
Ben là, on le comprend d'abord.
Match à 19h sur RDS, décrit comme à l'habitude par Pierre Houde, analysé par Marc Denis, surveillez le numéro 8, Zach Werenski, l'excellent défenseur des Blue Jackets de Columbus. 77 points en 66 matchs pour un défenseur, c'est exceptionnel. On se parle demain, Pascal Sévin.
Sans faute.
Le retour de Gravel suit à l'instant.
Gravel.